Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui vous donne une bénédiction à chaque nouvel épisode. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Alors messieurs, on se retrouve pour l'unique épisode du mois de mars. On le rappelle, il y aura un seul épisode sur ce mois-ci parce que nous prenons un petit break histoire de ne pas finir...
Burnout.
Ouais, voilà, burnouté à la fin de l'année comme ça a été le cas l'année dernière. Donc, un seul épisode, voilà, on tient le rythme. Mais nous sommes là et on se retrouvera donc en avril avec deux épisodes. On reprendra le rythme normal. Aujourd'hui, on va parler de Slay the Spire. On va revenir sur ce jeu voilà, qui a lancé le...
Incroyable
Alors,
jeu.
Déjà, oui, mais qui a lancé le phénomène des deck builders roguelite. On va revenir sur sa création et puis on discutera, on essaiera de décortiquer sa formule si accrocheuse, si addictive. Oserais-je utiliser ce mot ? Mais c'est vrai que c'est pas un mot que j'aime bien utiliser.
Mais moi non plus, parce et pourtant, que... tu vois, c'est un mot qui est... je me faisais la réflexion qui est vachement rentrée dans le discours marketing autour du jeu vidéo. Tu vois, sur, vous ouvrez n'importe quelle publicité de jeu pour mobile, c'est un jeu super addictif, etc. Et je me suis rendu compte, voilà, micro parenthèse, que tu vois, il y a beaucoup de faux commentaires. Tu sais, il y a toute une période en fait où il y a beaucoup de jeux qui achètent des commentaires, tu vois, machin de bidule. Et c'est ça, c'est ce jeu est tellement addictif. Et les gens, en fait, c'est rentré dans le langage courant.
Et c'est un truc positif. Alors qu'en fait, le mot addictif, ça devrait quand même nous questionner un petit peu. Donc,
et pourtant. Ça ne nous empêche pas de parfois de le...
On fait des blagues,
tu vois. Spire, on capte, tu vois. Voilà, si quelqu'un dit c'est addictif ou des métaphores en drogue, on parle de marmite de crack aussi pour Elden Ring. Bon, tu captes un peu le langage.
Non, mais justement. Non, mais il y a un côté où, tu vois, c'est un peu l'enfant qui criait au loup. C'est qu'il y a le côté au début où tu fais ça et c'est un peu drôle. Puis au bout d'un moment, en fait, ça devient vraiment le bon. Mais c'est pareil, c'est comme toi, moi, j'ai du mal avec ce mot-là. Donc.
Mais en tout cas, on va essayer de s'intéresser à pourquoi, justement, c'est si accrocheur. On reviendra donc sur tout ça dans l'épisode. Avant, on remercie notre sponsor, le PlayStation Plus. Qu'est-ce que c'est ? Je le rappelle, c'est un abonnement qui vous permet d'accéder à différentes ludothèques en fonction du palier que vous choisissez. Le palier de base, vous avez des jeux offerts tous les mois. Le palier extra, il y a déjà une grosse ludothèque qui est bien garnie. Et puis le palier premium, il y a en plus les jeux classiques et la possibilité de jouer en streaming. Moi, je suis toujours sur Horizon Forbidden West. Je passe plutôt un bon moment et c'est vrai que c'est appréciable de pouvoir y jouer comme ça pour sans avoir à l'acheter complètement, c'est pratique. L'abonnement. Et puis ce qui est cool, c'est quand même vraiment tous les mois il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Là ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a dit,
qui était sympa? Il y a Battlefield 2042, mais il y a surtout Minecraft Dungeons,
Holy World,
ouais, qu'on aime, voilà,
qu'on valide,
qu'on aime beaucoup,
validé par la street ici même.
C'est le fils spirituel des Tony Hawk, donc
le fils spirituel,
ouais, c'est le vrai successeur des Tony Hawk.
Ah, le vrai successeur,
pas le faux successeur, le vrai successeur.
Même studio que Rollerdrome, je crois, si je dis pas
oui tout à fait, ouais c'est ça.
Alors je crois que c'est pas la même équipe,
c'est le même studio, parce qu'ils sont vachement agrandis, ils avaient fait différents.
C'est vrai que Rollerdrome aussi, on peut le dire, c'était très sympa. Mais bref, tout ça, pas Rollerdrome, n'est pas sur l'extra, mais par contre voilà, Holy World qui est très stylé, et puis il y a toujours Horizon qui est donc rentré dans le truc. Si vous voulez y jouer, merci au PlayStation Plus de soutenir la grande opération de domination du monde de Fin du Game. On va pouvoir passer à Slay the Spire. La musique a été sélectionnée.
Oui, pour l'intro, tu vois, la petite musique du thème, la petite musique qu'on a voilà au moment de choisir son personnage, on est bien, on connaît, on est dans ces petites charentaises.
Et on se retrouve donc juste après ça.
Thank you.
Alors, Slay the Spire, c'était arrivé en Early Access fin 2017, et puis c'est sorti en version 1.0 le 23 janvier 2019 sur PC. Après, c'est arrivé sur console, donc PlayStation, Xbox, sur Switch, et puis c'est arrivé sur mobile, donc voilà. C'est partout, on se disait pas encore sur frigo
mais
pendant la préparation,
ouais,
mais peut-être.
Mais voilà, c'est pour les gens qui nous écoutent depuis longtemps, on sait qu'il y a les adorateurs, les adoratrices de la blague du frigo.
À chaque portage énoncé par Hugo, Benoît fait oui, il y est, j'y ai joué, oui, j'y ai joué, je l'ai
ah
testé.
Oui, voilà,
mais
je l'ai acheté trois fois.
Je l'ai acheté trois fois.
Je l'ai sur PC.
On parlait d'addiction, voilà, on est directement là-dedans.
Non, j'arrête quand je veux, voilà.
C'est développé par Megacrit Games, c'est publié par Humbundle, on se disait d'ailleurs c'était leur premier jeu.
Tout à fait.
Édité. Ils ont, on ne sait pas ce qu'ils ont édité d'autre depuis.
Ah si, justement, j'en étais en train de regarder, il y en a pas mal, tu vois, alors il y avait Wondersong, ils ont fait un autre Signalis récemment.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Unpacking, c'est eux. Ouais. Temtem, c'est eux aussi, là, le Pokémon-like. Enfin, il y a eu pas mal de choses dans les roguelikes qu'ils avaient fait. Wizard of Legend aussi, qui est sympatouche. Flynn, qui était un bon petit. Comment s'appelle, Castlevania-like. Bref, ils ont une bonne sélection. Ouais, récemment, ils ont fait Ghost Song aussi, ce qui est une sorte de Metroidvania ambiance. Voilà.
Donc, on a parlé d'Humble Bundle. On va parler de Megacrit Games, donc, qui est fondé en 2017 par deux personnes, Anthony Giovanetti et Casey Yano. Deux personnes donc, qui se rencontrent à l'université, je crois qu'ils apprennent à faire du jeu vidéo, hein, tout simplement. Et pendant ce temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'université, donc, Anthony, lui, il travaille dans un magasin de jeux de société, donc il est plutôt branché jeux de société, mais aussi jeux de cartes. Peut-être que ça peut nous mettre sur la piste.
Ouais. Ah putain,
on peut commencer à faire quelques connexions comme ça. Exactement. Donc ils vont se rencontrer à l'université. Ils vont développer quelques petits jeux ensemble, des jeux flash notamment. Mais il y a pas grand chose. Qui va ressortir de tout ça. Ensuite, ils vont tous les deux travailler en tant que QA. Il y en a un qui travaillera chez Amazon, l'autre qui travaillera chez une autre boîte qui fait des apps, des trucs comme ça. Peut-être juste pour rappeler, QA, c'est Quality Assurance. Ouais. Donc le principe, c'est de tester les jeux ou les applis avant qu'elles sortent pour essayer de repérer un maximum de bugs, de choses qui n'iraient pas, faire remonter ça à la prod et que ce soit corrigé.
C'est même aussi s'assurer, tu vois, que le jeu fonctionne comme il est censé fonctionner par rapport
en tout cas sur les jeux vidéo.
Ouais, sur les jeux vidéo,
sur l'ensemble.
Mais là, sur des apps, j'imagine que pour Amazon, c'est autre chose qu'ils regardaient, mais.
ça devait être autre chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils regardaient, mais ils le regardaient.
Mais non, mais tu sais, c'est des, je sais pas, des.
Des tunnels de conversion, ouais, des choses, ce genre de
situations de clients, du genre je veux acheter un truc, ensuite je veux l'annuler, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, etc., etc. Quoi.
Donc ils travaillent tous les deux dans ces postes-là, ils continuent à se fréquenter, mais surtout, Anthony, de son côté, il va bosser sur un petit projet qui est tout simplement ce que deviendra Slay the Spire. C'est la base, il y a ce jeu de cartes un petit peu en PVE, et il en parle à Casey, et en 2015, il commence à taffer dessus. Anthony, lui, donc, il travaillait dans un jeu de société, mais il était aussi fan de jeux de cartes. Donc, il y en a un qui cite beaucoup, c'est Netrunner. Ouais. Je crois pas qu'on y ait joué ici autour
C'est un des nombreux jeux inventés par le créateur de Magic, hein, qui du coup est très prolifique. Et c'est dans un univers cyberpunk, simplement. Et,
c'est globalement, je pense, c'est un peu Magic.
C'est une conférence de la GDC, je crois qu'on cite là.
C'est même plusieurs interviews. Il y a eu beaucoup d'interviews où il le cite à chaque fois, c'est vraiment un de ses jeux favoris. Et puis, il y a évidemment Magic, puisque c'est clairement la référence dans
le jeu fondateur des années 90.
Petit détail qui est marrant, c'est que Casey, lui, est pas trop fan de jeux de cartes. Lui, il aime beaucoup plus les jeux d'action, etc. Limite beat'em all, des choses comme Dark Souls, des choses comme ça. Je sais pas si vous connaissez trop ces petits jeux.
Et qui va les animer, les petits persos, toi? Non, jeux de cartes.
Oui, ils étaient pas fans de dessin. Ça, on est sûr qu'on peut le dire.
Quand tu l'écoutes en interview, tu sens qu'il y a quand même des petites volontés esthétiques et tout, voilà.
On peut les voir, de toute façon, les cartes sur internet, vous pouvez voir donc les versions. Déjà, le jeu, c'est peut-être l'occasion de le dire maintenant, d'un point de vue graphique. On va dire quoi, qui va à l'essentiel, c'est comme ça qu'on le dit poliment. Enfin, moi, à titre personnel, c'est pas un jeu que je trouve très beau.
Oui, c'est vrai que c'est pas très. Je pense que même avant de rentrer dans l'analyse, c'est peut-être la première, c'est la faiblesse principale du jeu, en fait.
C'est que tu vois le
quand tu vas sur Steam et que tu vois ça et que personne ne t'en a parlé, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce machin? Parce que ça fait un peu de chipos, quoi.
Ouais, non, mais c'est important de le dire, parce que tu vois, Steam, vu la quantité de jeux qui sortent et le nombre de gens qui vont regarder des trailers, etc., aujourd'hui, l'enjeu de accrocher les gens en quelques secondes avec ta DA, etc., dans un trailer, c'est essentiel. Et Slay the Spire, enfin, je veux dire,
ouais, c'est vraiment...
vois, quand ça sort en 2017, moi, j'ai regardé des trucs, j'étais là genre.
Ah, moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'y avais pas joué, sous j'ai joué pour l'épisode. Je connaissais, je voyais, tu vois, des images, je sais, bon, c'est pas très beau. Quand moi, j'ai eu une petite période. À mon échelle, toute petite Magic à l'inverse, ça peut te happer par les dessins, le lore qu'ils créent derrière. Bon, c'est un autre délire.
Sachant qu'en plus, bon, là pour le coup, tu vois, chez Magic, ils ont toujours beaucoup travaillé, comme tu dis, l'imaginaire, le lore, l'univers, etc. Bon, là, Slay the Spire, ils ont fait avec les moyens du bord, littéralement. Et justement, c'est ce qu'on disait. Si vous regardez les toutes premières cartes, il y a des mods qui permettent de les réactiver sur PC et tout. C'est du fucking paintbrush. Hein.
Enfin, c'est vraiment trop drôle. Hein. Les premières fois, ils montraient les jeux pendant des salons
avec des petits dessins.
Dégueulasse des portes, mais vraiment littéralement vous pourriez dessiner ça sur Paint
mais tu vois que c'est assumé pour que ça sorte pas en 1.0 comme ça.
C'est du placeholder.
Y a du truc en mode je cite par exemple un exemple mais c'est, tu vois qu'ils ont juste dessiné quelque chose, le premier truc qui leur venait à l'esprit. Il y a une carte, je crois c'est Moving en anglais, et il y a un camion de déménagement, parce que déménager c'est aussi Moving. Donc tu sens que, tu vois la silencieuse, je crois qu'il sort un carton, tu vois, du camion. Bon, c'est une petite blague entre eux, où t'as une carte Backstab, donc couteau dans le dos quoi, et c'est une César salade, parce que César poignarde dans le dos. Donc il y avait même des blagues en fait dans leur
comme disait,
oui, parce que de toute façon l'objectif du jeu c'était pas ça allait pas vraiment être ça à la force. Ils sentaient bien qu'ils avaient quelque chose d'autre derrière,
parce que bon, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas encore à quoi ça ressemble, c'est un jeu de cartes on l'a dit, et donc ce qui compte en fait c'est finalement le texte et les valeurs numériques qu'il y a sur les cartes plutôt que le dessin.
Il y a quand même des ennemis qui sont modélisés, qui bougent un peu, voilà, c'est les cartes, c'est nos attaques, c'est les coups qui sont remportés ou les défenses,
et c'est ça la particularité en fait d'ailleurs de Slay the Spire, c'est qu'en gros c'est pas un jeu de cartes qui est vraiment abstrait. On va utiliser ces cartes pour attaquer, pour se défendre, pour nos actions, quoi.
Exactement, c'est un versus en fait entre notre personnage et des bestioles. Et d'ailleurs, truc vraiment fondamental, c'est que il y a quelque chose dans Slay the Spire qui est essentiel, c'est le côté l'intent system, c'est-à-dire qu'on voit ce que les ennemis vont faire comme attaque, et c'est ce qui fait qu'en fait à chaque tour, on doit s'adapter un peu à la situation. Est-ce qu'on va plutôt se défendre, est-ce qu'on va plutôt essayer de faire des dégâts, enfin comment on va jouer, c'est parce qu'on voit ce que les ennemis vont faire. Et ça, bah c'était pas
ouais,
là au début.
C'est assez fou. Se dire que ça n'a pas toujours été là, parce que c'est tellement une évidence, tu vois, pour le style de jeu, de savoir, bah là, tu vas te prendre tant de dégâts, donc il faut que tu te prévoies ta défense, etc. Tu vois, j'y ai pas joué sans, ça doit être assez compliqué.
En fait, c'était des attaques aléatoires. Enfin, les ennemis avaient un pool d'attaques et ils allaient faire des attaques comme ça aléatoires, ils piochaient dedans. Et je pense que c'est au cours du développement, ils se sont rendus compte que c'était compliqué finalement de jauger, parce qu'il fallait apprendre et tout. Les joueurs
n'avaient
pas pensé.
Quand tu connais pas le jeu et que tu sais pas ce qui va se passer, ton premier réflexe, ça va être de te défendre.
En tout cas, le jeu tel qu'il est pensé aujourd'hui, il est basé autour de l'intent system, puisqu'il y a des cartes, ça va être que de l'armure, des cartes, ça va être que de l'attaque. Ouais. Et si tu sais pas ce que fait l'ennemi, bon, c'est compliqué. Y a quand même on reviendra en détail là-dessus plus tard, mais t'as une relique qui te permet de donner plus de pouvoir, mais tu ne vois plus l'intention des ennemis. Mais le jeu, tu finis par connaître les patterns des ennemis, machin. Est-ce que c'est ce qu'ils avaient en tête à la base? Je sais pas.
Mais tu vois, l'apprentissage, il est. Enfin, tu vois, faut qu'il soit avant. En fait, sinon, tu mets la charrue avant.
Le jeu n'est plus clair. Tu joues plus toute la même façon, t'équilibres pas les attaques, etc. Donc vraiment, c'est ce fameux intent system, donc de voir les intentions des ennemis, qui va vraiment définir ce que va devenir Slay the Spire par la suite. Donc vraiment,
c'est très simplifié, c'est qu'on a vraiment une intention d'attaque, de défense, ou d'attaque et de défense, et t'as les deux petites icônes qui se superposent, ou un pouvoir
t'as des petits
escargots là.
Effectivement. Et puis d'ailleurs, ils en parlaient un petit peu sur les fameuses petites icônes qu'on voit. C'est qu'au début, quand ils ont commencé à implémenter le système, en fait, il fallait qu'à chaque tour, tu passes sur l'ennemi avec ta souris pour voir quelles étaient ses intentions. Il n'y avait pas des petites icônes résumées. Et en fait, ils se rendaient compte, ça prenait un temps fou à en fait évaluer la situation d'en face. Alors que maintenant, en fait, dès que tu vois un tour, tu dis, ok, là c'est un tour dégâts, là c'est un tour de défense. Il y a tout de suite, il y a quelque chose de très visuel, et notamment les petites attaques. Tu vois, ils ont changé les icônes. Au début, quand c'est des petites attaques, c'est des petits poignards. Après, t'as des machettes. Après, t'as des grosses armes.
Je crois que le plus gros, c'est une faux. Je crois que c'est le.
C'est ça effectivement.
Tout de suite 30-40 dégâts.
Et c'est ce qui fait que en fait, chaque tour, visuellement, tu vas avoir tous ces indices qui vont te permettre de immédiatement comprendre qu'est-ce qui va se passer pendant ce tour-là. Mais encore une fois, ça, c'était pas au début, et c'est quelque chose qui a complètement changer le développement du jeu, parce que c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur jeu. C'est assez marrant parce que tu sais, il y a parfois des développeurs qui expliquent un petit peu ça, tu sais, ils se lancent dans un jeu et puis il y a des mécaniques sur lesquelles ils tombent, ils disent ah tiens ça, ouais. ça marche bien, et en fait ils construisent à partir de là. Et j'ai l'impression que Slay the Spire, ils ont trouvé leur jeu grâce à cette
façon de développement. Tu sais, il y a toujours un peu cette métaphore de la sculpture, quoi. C'est-à-dire que t'as ton bloc de matière première et tu vas tailler dedans, et des fois tu vas avoir des surprises, tu vas découvrir des choses au fil de l'eau, quoi.
Je sais pas si c'était leur cas, mais un autre exemple de jeu qui tient sur l'Intent System, c'est Into the Bridge par exemple, où là t'as vraiment t'as l'échiquier, et ta mission c'est pas forcément de survivre ou de tuer tous les ennemis, c'est de protéger des bâtiments. Et donc il dit cet ennemi il va taper le bâtiment, cet ennemi il va tirer dans cette direction, et tu vas déplacer les ennemis, les pousser parfois, et juste les pousser pour qu'ils ne tirent pas sur le bâtiment. Et toute ta stratégie repose sur le fait de savoir ce qu'ils vont faire et de dévier leurs attaques.
En fait, dans ces deux jeux, il y a un petit côté un peu puzzle entre guillemets, c'est-à-dire j'ai dans Into the Bridge, c'est mes mouvements, mes attaques. Dans Slay the Spire, c'est les cartes que j'ai dans ma main à ce tour-là. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai face à ce qui arrive, et quelle est la solution optimale pour avoir un moins de dégâts, etc. Mais bon, on avance peut-être un petit peu trop en besogne dans l'analyse. On peut parler du marketing et de la sortie. Donc, on disait l'Early Access débute en 2017, fin 2017. Et ça, en conférence, ils disent que c'est un peu une erreur rétrospectivement, parce qu'ils sont sortis en plein milieu des soldes Steam. Et ce qui a fait que le jeu, le jour de la sortie, qui est quand même un jour important pour la sortie d'un jeu, même pour une Early Access, en fait, quand tu sors ton jeu en Early Access, le jour de ton Early Access, c'est ta sortie.
Oui, exactement. C'est une sortie. C'est-à-dire que vraiment, chaque étape, même d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le traite aujourd'hui dans les Early Access. Chaque fois que tu fais un nouveau contenu, il faut traiter ça comme une nouvelle sortie.
Mais bon, l'arrivée du jeu sur le sort, c'est quand même le moment le plus important. C'est là où tu vas pouvoir attraper un maximum de lumière, de faire parler de toi, et éventuellement monter dans les fameux classements de Steam. Mais là, le problème, c'était les soldes. Et ils disaient, rétrospectivement, on se rend compte que les gens, ils ont plus envie de chercher des deals pour les jeux, les gros jeux de l'année. Ils préfèrent acheter leur Witcher 3
à 30 euros. Sachant que t'as ça, il y a les deal, mais il y a surtout toute l'interface de Steam pendant les soldes qui ne met plus du tout en avant les nouveaux jeux. Ils mettent en avant uniquement les soldes, donc t'as plus tous ces outils visuels qui d'habitude sont là pour te booster un petit peu, quoi.
C'est ça, ils mettent en avant les soldes, ils vont mettre en avant, parce que ça existe déjà, mettre un filtre qui va être chercher les jeux qui sont à moins 50, à moins 60, à moins 70, et c'est à ce moment là que le plus de gens vont utiliser cette feature, et c'est le moment où les gens aussi ils clearent un peu leur backlog, tu vois, les wishlists, ils voient tous les jeux qui avaient en wishlist qui sont entre moins 10 et moins 60%. Donc c'est pas le moment, le comportement des gens à ce moment là n'est pas dans l'achat d'un jeu full price,
parce que toute l'interface est faite pour
Je disais, c'est un bon truc ce que tu soulignes là sur cette histoire de feature, de permettre de filtrer. C'est pour ça d'ailleurs que l'essentiel des jeux, en fait, quand ils sortent, sont en promo. Tous les jeux sortent avec toujours 10-15%, tout simplement pour pouvoir apparaître justement dans ces filtres-là.
Aujourd'hui, c'est beaucoup le cas. Je sais pas si en 2017 ça l'était
je pense que c'était déjà le cas.
Mais maintenant, c'est vrai que c'est une pratique qui est relativement universelle, presque, surtout chez les indés. Parce qu'autant chez les gros, les grosses productions, ils vont sortir.
On sort à
89€, 99€, on sort.
La version collector édition spéciale à 109€.
Exactement. Mais chez les indés, c'est vrai que c'est une pratique maintenant qui est assez normaliser de vendre au moins 10-15% sur les jours de la sortie. Encore une fois, pour monter dans les
classements. C'est toujours de la stratégie, en fait, pour pouvoir se faire repérer par l'algorithme de Steam, pour pouvoir accrocher les gens qui vont naviguer, en fait, sur Steam de différentes manières, et du coup essayer de grappiller, de transformer, en fait, des gens, puisque tout l'enjeu avant la sortie de ton jeu,
c'est les wishlists,
c'est le nombre de gens qui vont mettre le jeu dans leur liste de souhaits. Comme ça, ils reçoivent une notif le jour où il sort, et en fait, tout simplement, on sait qu'il y a un taux de transformation. Il y a X% des gens qui, en général, achètent le jeu en day one. Et du coup, ça te permet de te faire un peu tes petites planifications.
Et c'est donc pas ce qui va se passer pour Slay the Spire, puisque ils vont sortir à ce moment-là. Donc, ça va pas forcément être bon pour eux. Le jeu, il va démarrer assez lentement. Mais néanmoins, quelques mois après, la pilule a été transmise. Et il y a un certain nombre de créateurs de contenu, des streamers, des streameuses qui vont diffuser le jeu. Et c'est à partir de là que le jeu va commencer à trouver son succès. Ça a vite fonctionné, en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné sur le day one pour eux, mais très vite, le jeu, il va commencer à trouver son public. Et puis surtout, eux, ils se mettent vraiment en mode early access, les bonnes pratiques, avec un suivi assez énorme de tout ce qui se passe. Donc déjà, il y a des mises à jour toutes les semaines, mais vraiment, ils avaient un truc. Au début, c'était une blague de dire, on va faire des weekly updates, et c'est ce qu'ils ont fait vraiment. Donc toutes les semaines, une update pour dire tout ce qui a été ajouté. Parce que, en même temps, Et c'est ça aussi un peu la spécificité des roguelites, et surtout avec un jeu de cartes, c'est d'autant plus vrai. Et bien, c'est de monitorer vraiment tout l'équilibrage. Voilà, qu'est-ce que les gens utilisent comme carte pendant l'early access. Ça va leur permettre de. Ils vont récupérer énormément de données. Oui. La fameuse
télémétrie.
Exactement. Merci, ouais, j'ai placé mon mot, je suis trop content.
Non, mais c'est vrai que c'est pas un mot que le grand public connaît.
Ouais, alors qu'en fait, c'est ce que. Quand vous acceptez les fameuses conditions que vous ne lisez jamais, en fait, vous autorisez les développeurs de jeux, enfin les studios, à récupérer les données de ce que vous faites, vos inputs, l'utilisation des objets, etc. C'est ce qu'on appelle la télémétrie, et donc c'est vraiment toutes les données de ce que vous faites dans le jeu et qui leur permettent de savoir, je sais pas, c'est pour ça après que derrière les mecs de Call of ils peuvent vous dire il y a eu 36 milliards de balles qui ont été tirées, etc.
Ouais.
Parce que il y a des jeux, tu vois, les gens
en ligne, et ça c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg. C'est
mais
plutôt
ça
voilà, est-ce que
présent.
Les gens utilisent bien cet objet, est-ce oui. que les gens utilisent bien cette mécanique, tiens, et dans le cadre de Slay the Spire, c'était par exemple on rajoute une nouvelle carte et ça y est, on se rend compte qu'elle est énormément utilisée, qu'elle est utilisée même au détriment d'autres cartes. Et en fait, tu dis, on a un problème d'équilibrage. Ça veut
elle
dire qu'on a
forte.
Fait une carte qui était exactement trop forte. Donc, ça veut dire qu'il faut soit qu'on baisse un peu le nombre de dégâts qu'elle fait, soit qu'on augmente le coût de la carte, etc. Donc,
sachant qu'on peut en fait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la télémétrie permet des milliards de choses. Tu vois, on peut se rendre compte si les gens vont cliquer, par exemple, sur une icône beaucoup plus que ce qui est censé être latente. Ça veut peut-être dire qu'il y a un souci d'interface. Tu vois, peut-être que le bouton est mal placé. Tu peux vraiment tout anticiper avec ce genre de choses et vraiment, comme tu disais, monitorer, donc vraiment avoir un suivi, avoir le doigt sur le pouls du jeu pour voir ce qui se passe.
Ou quand t'as des retours de joueurs, donc 3 fois sur 4, plutôt en colère, quand ils font des retours, qui vont se plaindre d'un truc, comme les joueurs, faut pas les croire sur parole, parce qu'ils peuvent avoir une impression, une frustration, ne pas savoir mettre le doigt dessus. Là, tu regardes dans les données, ils vont dire par exemple tel boss.
Les data brutes.
Parce qu'ils peuvent te dire tel boss il est trop fort, mais en fait, une fois que t'as regardé les données, tu dis non, en fait, c'est parce que c'est telle carte ou les événements qui arrivent avant sont peut-être un petit peu trop durs ou pas. Enfin bref, là, c'est ton job de toute façon de designer. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est toi qui vas voir tous les facteurs qui rentrent en compte dans la difficulté. Il y en a beaucoup plus que juste t'es mort là et en fait, c'était la faute à ça. Non, ça peut être la faute de plein d'autres facteurs. Et donc, les données permettent un regard un peu plus froid.
Et donc, Excel, la vie.
Oui. Non,
c'est
mais...
des grands fichiers Excel remplis de données où on fait des moyennes, des choses comme ça pour évaluer que tout se passe bien. Et ces fameuses mises à jour semaine après semaine, elles sont là pour rectifier, faire tous ces rectificatifs, jusqu'à ce qu'on atteigne une version qui soit à peu près stable. Et d'ailleurs, le jeu, on en parlera à la sortie, avait 3 personnages. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait un personnage, il y en avait un autre qui était en bêta. C'est-à-dire qu'on pouvait. Les gens y jouaient tout en sachant que c'était un peu cassé. C'est-à-dire que, on y joue pour voir. Justement ce que ça donne, et une fois qu'il était stabilisé, que le deck était bien constitué, ça y est, il passait sur la version de base du jeu, et quand le jeu sort, donc il y aura 3 personnages. Et puis surveille beaucoup Reddit, ils ont été quand même très actifs sur les forums, etc. C'est finalement un peu ce qu'on disait avec Dead Cells, c'est un peu la même école, c'est ces gens qui sont très présents comme ça dans les communautés pour récolter un maximum de feedback et essayer de faire un jeu qui a la certitude d'être vraiment solide au moment où il va sortir.
C'est un boulot, parce qu'ils sont que 2. Donc, tu vois, et Slay the Spire, rapidement, c'est quand même des centaines de milliers de joueurs au quotidien. Même encore aujourd'hui, si vous regardez les stats Steam, c'est beaucoup de gens qui y jouent. Donc, ça leur a demandé quand même, je pense, un sacré boulot, un sacré engagement là pendant 2 ans de suivre le jeu jusqu'à la release en 1.0.
Oui, c'est vrai qu'ils sont vraiment, on l'a pas spécifié, mais ils sont vraiment restés 2. Aujourd'hui, Mega Creek Games, c'est toujours que 2 personnes, puisqu'ils ont été aidés par Humble Bundle pour le marketing. Donc, juste 2 personnes, énormément de taf, d'équilibre. Et de toute façon, c'est ça le cœur pour un jeu de cartes. La sortie, donc, en 2019, ça sort en janvier 2019. Ce qu'on sait, c'est que fin 2019, ça c'est officiel, il y avait 1,5 million d'exemplaires qui a été vendu sur Steam, dont 50%, près de 50% en Chine, puisque le jeu, dès qu'il est sorti, dès qu'il y a des streamers, des Chinois qui ont commencé à le diffuser, ils ont fait « Ah, tiens, nos chiffres de vente, ils commencent à monter d'un coup. »
On en avait parlé la dernière fois avec Dead Cells, on est toujours dans cette réalité qu'aujourd'hui, le marché du jeu vidéo, quand t'as accès à des milliards de gens qui ont tous un smartphone dans leur poche, d'un coup, c'est intéressant.
Et encore, ou non, ça jouait sur PC.
Ouais, sur PC ou sur smartphone.
Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde les reviews Steam, on a ce fameux chiffre magique qui est de dire qu'on multiplie un peu par 30, et ça encore, c'est l'estimation...
très conservatrice.
Voilà, très conservatrice, j'aime bien, comme tu le dis, il y a un truc d'analyste.
Parce que, en fait, y a des, c'est assez compliqué d'évaluer, parce qu'en fonction des jeux, ça c'est toujours, je suis des newsletters un peu de marketeux de jeux vidéo, c'est intéressant intéressant de voir qu'il y a des taux de transformation en fonction du type de jeu. Il y a des gens qui vont... alors évidemment, il y a les jeux qui ne vont pas bien, où là, tu vas avoir des scores qui vont être rabaissés parce qu'il y a du review bombing. Mais pour les jeux qui ont des bonnes reviews, en fait, ils vont avoir plus ou moins de taux de conversion de gens qui prennent l'effort de se dire « j'y vais », etc. Il y a des jeux notamment qui vont l'indiquer, tu vois, genre « est-ce que ça vous a plu ? Laissez-nous une review sur Steam », parce que c'est ultra important. C'est vraiment, ça fait partie de ces, comment on appelle ça, les KPI, comme vous dites, là, les métriques du succès du jeu. Et ça permet aussi aux gens externes d'anticiper, d'imaginer, on va dire, un peu le nombre de ventes, quoi.
Et donc aujourd'hui, on est à plus de 100 000 reviews, donc on peut se dire x30, c'est minimum 3 millions. Et ça, comme tu le dis, c'est conservateur. En vérité, on peut peut-être monter jusqu'à 5 millions.
Bah,
c'est
pas impossible.
Et ce serait 3 millions, bien sûr, que sur Steam, puisque la version Switch, les versions consoles et la version mobile, qui on l'imagine aussi en Chine,
a dû. On peut imaginer que c'est entre 3 et 5 millions, et tu te dis, bon,
en total, est-ce qu'ils sont à 6 millions, est-ce qu'ils sont à 10 millions ?
Je ne sais pas.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à 2, eh bien, normalement, ils ont mis la daronne à l'abri. Ça, on peut le. Normalement, on peut le dire. Le Metacritic à la sortie, il est de 89, donc plutôt un bon score.
Excellent score, même.
Excellent score, probablement handicapé par cette esthétique absolument infâme, parce que sachant qu'en plus, depuis, il y a un quatrième personnage, donc il y a encore plus de contenu qui a été ajouté au fur et à mesure du temps. Donc voilà, peut-être que s'il sortait aujourd'hui, c'est une référence, et de toute façon, c'est ce qu'on va explorer après dans la suite de l'épisode. Avant de passer à l'histoire, le Patreon. On parle de millions, vous savez que c'est aussi l'objectif de Fin du Game, des millions sur le Patreon. Eh bien, rejoignez-nous parce que la route est encore longue.
Oui, là, ouais, il en faut encore deux ou trois.
Avant d'attendre ce chiffre.
Fin du Game en chinois.
La localisation de Fin du Game.
Voilà, ouais.
Est-ce que nos amis anglophones, tu vois, ne mériteraient pas d'entendre émission qui va au bout des games?
Yes, well, we can do it, no problem.
Mais non, mais toi, tu parles bien anglais.
Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus sur l'internet français. En revanche, merci évidemment de nous soutenir donc sur Patreon. Je rappelle que le prochain palier, c'est le palier des invités et on aimerait bien, la FDG Family. On espère qu'on pourra faire ça pour la prochaine saison. On a quelques profil en tête qu'on a envie de voir dans l'émission. On espère que ça vous plaira. Et si ça vous tente, eh bien, rejoignez-nous sur Patreon. On va donc parler de l'histoire de Slay the Spire. Voilà, c'est fait.
Merci beaucoup. Travail de résumé.
Je pense que sur Dead Cells, on était déjà à un niveau rikiki. Mais là, il y a
c'est un jeu, c'est écrit dans le nom, tu vois, c'est comme Diablo, etc. Il faut slay the Spire.
Donc il faut tuer l'aiguille.
Il faut tuer l'aiguille, c'est évident.
Mais c'est un mot de plus que Monster Hunter, donc
Et c'est vrai que l'histoire de Monster Hunter,
c'est pareil.
En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est un grand donjon, donc qui est une aiguille, donc une tour qui monte, et il y a trois personnages qui sont ressuscités par une créature qui a une forme de baleine. Et l'idée, c'est d'aller battre le cœur battant de cette aiguille et donc de s'enfuir de ce donjon. Voilà, c'est l'histoire. Pour finir le jeu, il y a quand même cette idée que il faut finir avec chacun des personnages pour débloquer une des clés, et ensuite avec chacun des personnages, on pourra faire une run et récupérer ces clés pendant la run. C'est ça qui permet d'ouvrir la porte pour vaincre le cœur. Et après, je vais pas appeler ça une cinématique, je vais appeler ça une BD. Un dessin de fin. Je pense que c'est ça le maximum.
Une planche de BD.
Une planche de BD.
Vois ton personnage qui s'enfuit et qui réussit à sortir.
Tu tues le cœur et qui
après tu désinstalles le jeu parce que tu ne veux pas les remettre prisonniers.
Tu continues, tu remets le jeu dedans, tu dis yes, j'y suis arrivé. Donc...
Tu les attrapes avec, comme dans les vieux dessins animés, tu sais, avec une espèce de crochet géant, là tu leur fais tu reviens.
Tu reviens.
Oui, parce que jusque-là, si tu fais pas entre guillemets la vraie fin, en fait tu tapes le cœur,
tu te tues, il y a un truc genre revenez plus fort ou je sais pas quoi. Et voilà, c'est l'histoire de. Il y a des petits détails rigolos. De l'or,
il y a des mini touches de l'or
dans les événements, tu vois. Il y a des personnages, il y a le marchand, on sait qu'il y a le clerc par exemple, tu vois, qui a une forme de masque particulier. Il y a un délire avec un personnage qui te donne justement des masques. Enfin voilà, il y a des petits trucs. On sait qu'il y a une arène,
il y a un Necronomicon.
Ça apprend que Nioh, c'est une baleine qui ressusciterait des soldats qui vont affronter le cœur, mais on n'en sait pas.
Il y a des vampires à un moment,
c'est vrai, ils ont de la dope. Il y en a qui vendent de la dope, voilà. Mais bon, tout ça,
c'est le petit gobelin qui vend la dope.
Qui te vend de la
dope. Un mec avec un petit capuchon.
Un petit capuchon, exactement.
Le dealer.
Bref, il y a un truc un petit peu esthétique rigolo, mais voilà, en termes d'histoire, on va pas faire semblant d'aller plus loin. Par contre, ce qu'on avait envie de faire avant de parler du jeu en tant que tel, c'est faire un petit état des lieux, quand même, des jeux de cartes, notamment dans le jeu vidéo, parce que bon, des jeux de cartes, ça, c'est l'histoire humaine qui...
je sais pas, je pense que ça remonte à longtemps, avant Jésus-Christ.
Là, on a bien fait nos recherches sur les cartes.
Fait de recherche sur les jeux de cartes physiques, parce que ça, on sait que ça existe dans toutes les cultures et toutes les civilisations depuis la nuit des temps.
Est-ce que ça tape le carton dans vos familles?
Moi, je suis très jeu de cartes, ouais.
Moi aussi, ça jouait beaucoup.
Je sais qu'on joue... tu vois, on fait beaucoup de belotes à la famille, c'est des jeux.
Mon arrière-grand-père, donc c'était son travail. Il allait les ouvriers, tu vois, à la fin du mois, il allait récupérer les salaires en jouant aux cartes. C'est comme ça qu'il vivait, mon arrière-grand-père. Oui, voilà, c'était son lifestyle.
Donc, il y a des hustlers dans ta famille.
Ça joue vraiment aux cartes, tu vois. Taper le carton,
et il amenait son paquet.
Ça jouait beaucoup. En tout cas, voilà, dans ma famille paternelle, ça joue vraiment beaucoup aux cartes. Mais pour rentrer plus dans la famille un peu plus geek, on peut parler des jeux et qui vont être justement adaptés en jeu vidéo. On peut parler de Magic, on parlait de Netrunner. Il y a eu peut-être un jeu vidéo Netrunner, je suis pas
très
sûr.
Certainement, ouais, il y a eu des trucs. De toute façon, des jeux vidéo, moi, tu vois, j'ai commencé dans les années 80. Il y avait évidemment tout ce qui était jeu de poker. Ça, les jeux de poker, c'est arrivé assez rapidement. Alors, c'est pas la version hold'em, c'est la vieille version plus classique. Mais après, vous connaissez le solitaire, Windows. C'est quoi? C'est la dame de pique? Non, c'est comment l'autre jeu, tu sais, sur Windows? T'avais tout un tas de... Il y avait Spider, Solitaire, Freecell, tout ça. Donc, tous ces petits jeux de cartes. Mais sinon, il y a eu, effectivement, dans les années... Je crois que c'est les années 90, tu vois, j'ai un doute sur Magic.
Je crois que c'est 93.
Ouais. Magic l'Assemblée, ça a quand même tout transformé. Enfin, vraiment, là, du jour au lendemain, les cartes Panini, tu vois, passent un peu dans la ligue supérieure. Les lootbox commencent à arriver. Puis plus tard, il va y avoir Yu-Gi-Oh! Va y avoir ce petit phénomène qu'on a appelé Pokémon.
Et tous ces jeux-là vont être adaptés
très vite. Adaptés en jeu
sur
vidéo,
notamment déjà des Game Boy. Moi, je me souviens que je jouais au jeu, j'avais le jeu Yu-Gi-Oh, eu un jeu, le Pokémon Trading Card Game aussi.
J'avais mon jeu Yu-Gi-Oh sur la GBA, j'étais fanat de celui-là, j'aimais beaucoup, voilà.
Et puis ça coûtait moins cher que d'acheter tous les boosters, parce que c'est aussi une autre histoire.
Mais ça, tu vois, micro anecdote, les terreurs de l'adolescence, tu vois, de notre ami Exerve, c'est justement, tu vois, genre je dis à mes parents, j'ai tous mes copains au collège, ils jouent à Magic, c'est trop bien. Ma mère, tu vois, elle a regardé ce que c'est, elle a dit non. Non, tu nous as déjà fait le coup avec Warhammer. Jamais on se fera avoir une deuxième.
Ah oui, Warhammer aussi.
C'était une blinde, ces trucs.
C'était horrible,
les
boosters.
Déjà, rien que les boosters, il y avait quoi? Il y avait 6 cartes dedans, 8 cartes, trucs comme ça, où t'en avais une rare à l'intérieur, et voilà. Et après, t'avais les decks. Moi, je me souviens, j'en ai acheté quelques-uns des decks de cartes Pokémon, tu sais, les gros là, avec les cartes holographiques, etc.
Je me souviens que Magic, tu vois, je regardais ça de loin, parce que du coup, j'allais jouer, toujours dans les anecdotes, j'allais jouer en fait dans le magasin Game Workshop de la ville où j'étais, et nous on jouait à Warhammer, et assez vite en fait ils se sont mis à avoir des tables pour que les gens jouent à Magic, et tu vois, je regardais ça avec envie, et je sais que j'y ai joué avec des decks que des potes me filaient, tu vois.
On parlait de l'esthétique, c'est vrai que je trouve que les cartes Magic, il y a quand même un travail dessus, c'est quand même assez magnifique. Je me souviens, j'étais en CM1, CM2, et je voyais aussi d'autres élèves qui jouaient avec ça, et j'étais fasciné par l'esthétique de ces cartes, parce qu'il y avait quelque chose.
Évidemment, t'en as qui sont shiny aussi, et nous, il y avait un magasin qui vendait des jeux de société, des trucs, mais il avait aussi le fameux classeur avec que des cartes que tu pouvais acheter à l'unité.
Il t'ouvrait ce truc, où il te mettait, il y avait la cote des cartes et tout.
44 francs.
Puis après, puis il y a tout ce délire, où t'as les foils, du coup, tu vas acheter les petits supports pour pouvoir protéger tes cartes, etc. Enfin, il y a toute une esthétique, il y a tout un délire autour de la conservation de tes cartes.
Et pour terminer un peu dessus, puisqu'on parle d'époque, moi j'ai joué globalement à peu près au milieu des années 2000, à peu près. C'est aussi le moment où tu pouvais commencer à acheter sur internet, tu vois, commander si t'étais un peu à l'aise à ça, ou que les parents étaient OK. Et il y avait des moments où, parce qu'on était peut-être 3-4 potes à jouer un petit peu, donc mal, parce que les règles on les maîtrisait, comme des ados qui maîtrisent les jeux Magic. Et tu sais, il y en a un jour, il a acheté une carte à 10 balles sur internet qui est giga forte, qui défonce tout le monde, et puis il y en a un autre la semaine d'après. Il n'y a pas eu de grosse surenchère en plus, qu'il n'y avait pas un budget Magic de fou. Mais tu vois, internet, je pense, a un peu changé quelques rapports à ce niveau-là.
Que de chemin parcouru jusqu'aux ouvertures de boosters aujourd'hui, et ça, c'est une belle culture.
Mais on pourrait revenir justement au début des années 2000, parce que que bah, c'est la période d'explosion, tu vois, 2004 World of Warcraft, donc c'est vraiment l'âge d'or du MMORPG et bah, la ruée vers l'or hein, pour tous les éditeurs. Et c'est aussi à cette époque-là que le modèle du free-to-play commence vraiment à s'installer un petit peu dans les mentalités. Et moi, je me souviens, tu vois, il y avait un jeu Yu-Gi-Oh, mais sinon, un jeu Flash, petit SO, gens qu'on connu, j'ai joué pendant longtemps, j'ai dépensé beaucoup de pognon en Allopass dans un jeu qui s'appelait Urban Rivals. Donc, je sais pas s'il y a des gens, c'était littéralement Magic, t'avais des familles avec des petites cartes et des petits dessins qui étaient très cool. Voilà, donc il y a sûrement des gens qui ont joué à ça parmi nos auditeurs et nos auditrices. Mais comme ce modèle free-to-play n'était pas encore stabilisé, on sentait qu'il, tu vois, il tâtonnait. Ouais. Il y avait vraiment genre cette idée de alors mais qu'est-ce que je fais avec mes cartes Magic ? Est-ce que je peux les transférer ? Est-ce que mes cartes Yu-Gi-Oh elles existent en vrai ? Mm-hmm. Il y avait différents exploitants, donc il y avait pas genre forcément le jeu officiel Magic qui était développé par le studio machin. C'était des gens qui allaient payer des licences et tout. Ça a mis du temps et puis bah, après les étoiles se sont alignées. Hein. Je pense que vous le savez à partir des années 2010, tout le délire du jeu service du free-to-play, ça y est. C'est comme
ça commence à bien se mettre en place, les bonnes pratiques commencent à être, être connues et bien établies. Et bah, le gros changement, c'est Hearthstone en 2014, donc le jeu de Blizzard. Voilà, et là.
Qui arrive, il y a Runeterra qui est sorti depuis, qui est la, bah, va dire, la réponse de nos amis de chez Riot. Il y a Artifact qui était le jeu de Steam, PTDR.
Oui, ils l'ont fermé ou non,
ils ont foiré leur modèle économique. C'est vraiment, là, c'était un. Assez rapidement, le jeu est sorti, et tu sais, il y avait des vidéos YouTube de genre, ce jeu est un pay to win, voici combien. Tu sais, c'était, t'avais des vidéos en mode, il vous faudra 35 000 euros ou 35 000 dollars pour avoir toutes les cartes. Et t'es là, genre,
non, j'ai pas envie de jouer. C'est pas 35 000, c'est beaucoup moins, mais c'est quand même. Faut quand même payer tu veux avoir
Hearthstone, c'est la douche aussi.
Je crois qu'il faut jouer énormément ou quand même payer.
C'est pas forcément.
Mais ça marche toujours bien quand même. Hearthstone, c'est toujours. De toute façon, moi j'avais joué un petit peu et j'avais mis, je sais pas, 20 ou 40 euros dedans.
Il y a une instantanéité, tu vois. Quand tu joues à Magic, tu vois, tu lances Magic Legends, qui est le jeu aujourd'hui officiel du jeu Magic en ligne. Il y a des trucs, des fois, tu sais, tu vois les règles, il y a déjà 23 lignes dans un petit carré, un petit rectangle de deux cartes. T'es là genre, ah, ça c'est ça les règles. Hearthstone, c'est simple. Tu vois les dégâts, les machins, les bidules.
L'efficacité dans les feedbacks. Et puis tu sais, même, je trouve leur façon de faire apparaître les cartes quand tu ouvres un booster.
Ça fait plaisir.
Ils ont travaillé le truc comme
légendaire.
Le sourire de Benoît, vous l'avez pas vu, mais j'espère que vous l'avez ressenti. Mais c'est vrai que
j'adorais la voix du gars là. Tu sais, bon, il s'est fait virer depuis, mais j'adorais sa voix quand tu ouvrais les boosters de cartes, c'était trop bien.
Mais c'est dans le design Hearthstone, justement, je pense qu'ils ont volontairement pris ce contre-pied où ils voulaient un plateau simple, un nombre de cartes limité, tu vois, sur un plateau, un instant T, et donc pas trop de pouvoir, pas trop de trucs, justement pour cette instantanéité dont tu parlais. Puis il y a des petits feedbacks aussi quand tu tapes la carte.
C'est vraiment un jeu qui est extrêmement bien fait.
Mais il y en a eu des tas d'autres. Hein, on peut citer Shadowverse qui continue toujours d'exister. On peut citer le Gwent, hein, puisque du coup, les gens de CD Projekt, ils ont essayé de faire ça aussi. Bon, ça a pas trop marché. Il y a Duelist, le regretté RIP, qui arrive bientôt. Il y a Duelist 2 qui est en train de revenir et il y a un jeu de chez Ubisoft dont j'ai complètement oublié le nom, donc voilà, si jamais vous voulez me le dire dans le Discord,
Ubisoft,
je le dirai
avec
plaisir. Ils
ont fait un jeu,
oui, ils avaient bizarre, exploité un jeu de cartes comme ça,
oui, bah, ça m'étonne pas,
mais j'ai complètement oublié son nom, donc voilà.
Mais ce qui est important de retenir, c'est que tous ces jeux là ils ont quand même surtout une dimension compétitive. On est surtout sur du PVP, voilà, on va collectionner des cartes et se construire son deck pour pouvoir affronter d'autres personnes, ce que n'est pas du tout Slay the Spire en fait, du jeu de cartes vraiment purement PVE, donc versus des ennemis, des IA. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment,
c'est assez rigolo, c'est que c'est pas quelque chose qui était très répandu avant. Aujourd'hui c'est genre difficile de ne pas comprendre, tu vois, la notion de ce truc là parce qu'il y en a partout, mais à ce moment là les jeux de cartes pur PVE en fait étaient des jeux assez abstraits. C'est effectivement le solitaire, tu vois, tu te battais contre la machine entre guillemets, mais l'idée de donner un petit peu, tu vois, une espèce d'incarnation, de concrétiser le côté j'utilise une carte, ça fait des dégâts, c'est mon épée que j'utilise, etc., ben c'était pas si répandu encore.
Et puis surtout, on va le mixer avec l'autre truc des années 2010, surtout fin 2010, qui est le roguelike. Et voilà, vraiment on l'a mis, hein, a match made in heaven. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on connaît Slay the Spire et tous les clones, c'est une évidence en fait, ce truc là
c'est genre pourquoi ça n'existait pas depuis toujours.
Tu te dis ça doit exister depuis des dizaines et dizaines d'années, alors que non. Mais pourtant bah, c'est Slay the Spire qui va arriver avec cette formule et on va justement pouvoir rentrer dedans. Donc c'est un jeu de deck building. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport justement au trading card game? C'est quoi la différence fondamentale?
Alors en fait, c'est du coup tout ce qui est Magic, vous le savez, vous allez vous constituer un deck, vous allez vous créer des cartes, etc. Il y a un format qui s'appelle le draft où en fait vous allez ouvrir plein de boosters et vous créez des cartes cartes au fur et à mesure. C'est un peu ça, le deck building. C'est-à-dire que vous avez un nombre de cartes de base pour chacun des personnages, qui sont des petites cartes par défaut, et au fur et à mesure, vous allez débloquer des cartes que vous allez pouvoir choisir d'ajouter ou non à votre deck, et vous allez constituer votre jeu de cartes de cette façon.
Oui, donc la grosse différence par rapport à, en général, à un Magic ou un Arsenal ou quoi, où tu constitues ton deck à l'extérieur du jeu,
tout à fait.
Là, dans la boucle de gameplay, tu vas démarrer avec un deck de base, mais tu vas ajouter ou enlever des cartes
et à chaque
deck.
Partie, tu repars avec ce deck de base, modulo une petite bonus que Nio va te donner, mais tu repars avec ce deck de base que tu vas à chaque fois essayer de recréer au fur et à mesure.
Et donc, bien sûr, l'idée, c'est d'essayer de créer quelque chose qui est de plus en plus puissant, mais aussi de plus en plus équilibré et qui va pouvoir permettre eh bien, de traverser cette fameuse spire, donc l'aiguille, qui est en fait une tour. Qu'est-ce que c'est cette tour? C'est 60 étages à peu près, découpée en 3 zones principales. Et vraiment, il y a plusieurs chemins, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir choisir, ok, je démarre de là, et on va se faire une route entre des ennemis plus forts qui sont les élites, des feux de camp qui permettent de récupérer un petit peu de vie ou d'améliorer des cartes, et puis il y a des coffres et qui permettent aussi de débloquer des cartes, et puis il y a aussi beaucoup d'événements aléatoires qui là vont
c'est les petits points d'interrogation,
voilà, c'est ça. Et ça peut être plein de choses, voilà, soit on débloque des reliques, soit on débloque des cartes, soit on pouvoir se débarrasser de cartes, soit juste perdre des PV, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer à ce niveau là
et à part certains checkpoints obligatoires, donc t'as toujours un coffre, t'es obligé de passer par un coffre, par peut-être deux feux de camp, par un soldat d'élite, peut-être que ça dépend.
Tu peux les esquiver, très recommandé, mais tu peux le faire.
Mais voilà, t'as quelques checkpoints obligatoires, mais ensuite voilà, t'as ce choix d'embranchement où tu vas dire est-ce que je choisis cette branche ou pendant trois fois de suite il y aura trois points d'interrogation, deux ennemis, un point d'interrogation. Donc entre les checkpoints obligatoires, voilà, on va choisir un petit peu le
itinéraire. Et ça, c'est super important de le signaler. Ça fait partie des choses qui ont été démocratisées par Slay the Spire. Cette idée d'avoir comme ça la carte de tous les choix que vous allez pouvoir faire et qui vous pouvez vous indiquer votre chemin. Les gros roguelikes à ce moment-là, c'est encore Dead Cells, c'est Isaac évidemment, mais il n'y a pas encore ce délire.
Et encore au moment de l'Early Access, c'est à peine, ils ne sont pas vraiment sortis.
Et du coup, cette idée d'avoir la carte comme ça, où tu vois le boss en haut, toi tu as le point de départ en bas, et tu vois le chemin,
je vais passer par là, ce truc-là,
ça c'est déjà un des aspects qui vont vraiment différencier Slay the Spire, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on retrouve dans un tas de jeux.
Et le dessin t'indique quel boss ce sera aussi, quel boss de fin ce sera, parce que chaque ville, je crois qu'il y aura aléatoirement, tu auras un sur trois boss, je crois. Je crois que c'est trois boss à chaque fois. Mais toi, dès le début, tu sais lequel des trois ça va être. Et tu peux éventuellement commencer à préparer un peu ton deck en sachant que tel boss, ce sera ça.
Oui, et du coup, comme dans beaucoup de roguelikes, on a de la génération procédurale, c'est-à-dire que c'est pas de l'aléatoire. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont déterminées à l'avance. Vous savez que dans tel district, vous allez croiser telle élite, tel boss, tel type de contenu, tel type d'événement, etc. Et puis, c'est des choses que vous allez apprendre à gérer au fur et à mesure, quoi.
Et ce qui est intéressant aussi dans leur approche, c'est que dès le début, enfin, en tout cas, au moment du développement, ils se sont dit, non, on va pas faire énormément de cartes, on va pas relancer l'intérêt du jeu ou quoi en multipliant les cartes, on va ajouter des persos qui auront chacun leur gameplay.
Oui, parce que en fait, ils expliquaient que il y a ce truc dans cette idée de deck building, on atteint une sorte de sweet spot à un moment avec le nombre de cartes qu'on a, parce que plus, si tu prends un personnage et que tu arrêtes jamais d'ajouter des cartes, en fait tu peux pas trouver ton équilibre. Donc eux, l'idée c'était d'atteindre ça justement avec chacun des persos, et quand c'est atteint, c'est bon, en fait le perso il est prêt, et ça veut dire que quand tu as suffisamment de diversité dans les builds possibles avec un perso donné, ça veut dire qu'on est bon. Et c'est pour ça que ça mettra du temps, notamment la gardienne qui est arrivée un an après la sortie, il y a eu beaucoup de phases de test pour arriver justement encore une fois cet équilibre. Et eux, ils le disaient, ils disent a priori sur nos personnages on a atteint ce truc là ils y sont arrivés.
Non,
de toute façon, c'est pas pour rien si le jeu est une référence, c'est que justement ils sont arrivés à atteindre ce sweet spot là.
Et un truc qui est super important à dire qu'on n'a pas forcément indiqué, c'est que à chacun des tours vous avez un nombre d'actions qui est limité. Vous avez trois actions par défaut, donc vous pouvez jouer trois cartes, enfin en tout cas trois cartes de coup 1, puisque les cartes ont un coup. Et donc c'est comme il y a cette limitation, ça explique pourquoi derrière, si vous pouviez jouer 10 cartes par tour, on pourrait jouer avec des decks de 40 ou 50 cartes, tu vois, ça serait possible. Mais là, comme on parque avec 3, en général, quand t'as 20-25 cartes, c'est, pour moi, en tout cas, c'est vraiment déjà beaucoup trop, mais c'est déjà un deck assez rempli, quoi, puisqu'il va te falloir plusieurs tours pour
pouvoir cycler. Au fur et à mesure, tu peux quand même débloquer des reliques qui vont te donner un pouvoir, un point d'action supplémentaire, ce qui est quand même assez important, parce que si tu
c'est très fort, toute
une run juste avec 3,
c'est possible, mais c'est
compliqué.
Et le gameplay de la gardienne est aussi basé sur le fait que tu as des états qui vont t'en rajouter. De toute façon, c'est l'occasion de se pencher un peu sur ce que chacun font. On peut commencer par le soldat. Qui veut parler du soldat ici.
Bah, le soldat, c'est peut-être le plus
basique.
Voilà, c'est plus le plus basique, et vraiment un personnage qui est centré sur l'attaque pure, entre guillemets. Donc, soit il y a plusieurs builds. En fait, pour chaque perso, on va peut-être résumer un petit peu les différentes grandes stratégies qu'on peut faire avec eux. Le soldat, c'est soit on va jouer vraiment la force, donc la force qui fait qu'on va pouvoir augmenter les dégâts de chaque carte.
Ouais.
Et il a notamment une carte légendaire qui est la forme démoniaque où à chaque tour, tu gagnes 3 de plus de force. Donc, forcément, plus le combat s'éternise, plus c'est dangereux. Il y a une autre approche qui est celle beaucoup plus centrée sur la défense, où on va essayer d'accumuler un maximum d'armure à chaque tour, et même il y a quelques cartes qui permettent de transformer cette armure en attaque, notamment la fameuse carte qui est un peu basique, qui est plaquage.
Ouais.
Mais voilà, si tu la combines avec barricade ou mur de fer ou je sais plus comment ça s'appelle, voilà, tu peux faire beaucoup de dégâts d'un coup. Et puis il y a d'autres un truc un peu plus compliqué à jouer, qui est quand même le principe de l'épuisement, c'est-à-dire que tu vas sacrifier des cartes, les faire disparaître de ton deck pendant ce combat, et avec ça tu vas pouvoir soit tirer de la force, soit faire des attaques très puissantes. Donc il y a un côté un peu berserk qui peut jouer comme ça.
C'est exactement ça. Tu vas détruire tes cartes pour les transformer, tu sais, tu vas toutes les enflammer pour pouvoir faire plein de dégâts d'un coup. Donc c'est assez difficile à aborder au départ, mais quand tu réfléchis en fait au fait que tu veux que le combat dure le moins de temps possible, tu t'en fous en vrai de sacrifier ton deck. Tu vois, tu veux jouer à la vitesse. Et il a aussi un dernier style de jeu qui est un peu plus particulier, mais où il va s'infliger justement des dégâts. Donc toujours un peu dans cette idée de berserker, tu vois, il va se faire des dégâts et ça va lui permettre de piocher plus de cartes, faire plus de dégâts, etc., etc.
Sachant que lui, de base, il a une relique, on reviendra sur les détails, mais où il gagne 6 points de vie
après chaque combat.
Et c'est une relique que tu peux
transformer. Non, à la fin du combat.
Oui, pardon, à la fin du combat, tu regagnes 6 points de vie, c'est le seul à avoir ça de base. Et tu peux transformer cette relique, ça c'est un choix que tu feras plus tard, pour en avoir 12 à chaque fois.
Ce qui est énorme.
Ce qui est vraiment beaucoup, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a un côté un peu survie dans Slay the Spire. C'est-à-dire monter jusqu'à la fin, l'objectif c'est de gérer ses ressources et les points de vie en son thune. Et l'idée, voilà, c'est de conserver un maximum de points de vie. Donc forcément, il y a un gros côté risque et récompense à jouer avec ça. Mais voilà, ça fait partie de ce personnage. Puis il a d'autres cartes aussi qui permettent de il y a un truc qui s'appelle dévorer ou je sais pas quoi, où tu peux manger, tu sais, si tu tues l'ennemi, je crois que tu récupères sa vie,
t'as des points de vie max qui vont être ajoutés, enfin il y a toujours il y a des petites cartes un petit peu, en gros il y a des raretés de cartes évidemment, avec des cartes dorées qui sont un peu plus rares. Le deuxième personnage, c'est la silencieuse, c'est un peu ton perso fétiche toi, je crois, Max.
Moi c'est plutôt la gardienne.
Moi j'aime bien la silencieuse,
moi j'aime bien aussi.
Toi, mais t'aimes bien. C'est un perso qui est plutôt basé sur le poison, donc ça c'est vraiment sa mécanique de base. En fait, elle va pouvoir appliquer une dot qui va du coup à chaque tour enlever des points de vie, et ça va saper un peu la vie du personnage. Au fur et à mesure, ça s'est pas fait dès le début, mais ils lui ont rajouté les chiffres, donc c'est les petits poignards,
les petits surins,
qui coûtent 0 et que tu peux envoyer comme ça très très vite. Et sinon, les grandes mécaniques de la silencieuse, ça va être la défausse. Elle va pouvoir jouer avec le fait de se défausser des cartes et d'en repiocher derrière, et avec tout un carte de cartes en fait qui vont jouer sur cette mécanique là. La silencieuse, très vite, enfin je trouve que c'est un des persos sur lequel on peut avoir un build, ce qu'on appelle un build infini, où tu as vraiment en fait. Tu joues, tu passes plus ton tour, tu joues à l'infini et tes cartes sortent non-stop assez facilement.
Parce que, pour revenir sur la défausse, donc t'as certaines cartes qui sont meilleures ou activent un effet à condition que tu te défausses de deux cartes. Et donc il y a beaucoup de ça, effectivement. Il y a une carte où tu te défausses de deux, tu pioches de deux, ou infliger un dégât, piocher une carte, donc tu vas piocher. Et c'est beaucoup de cartes.
C'est l'attaque sournoise où si t'as fait, je crois que si t'as défaussé ta carte, elle coûte un moins par chaque carte défaussée. Il y a des cartes comme ça, et du coup, t'as un pouvoir qui fait qu'à chaque tour, tu te défausses d'une carte volontairement, donc bref. Y a plein de mécaniques où ça devient
c'est la première avec qui j'ai réussi, tu vois, j'ai réussi à finir le jeu, parce que je trouve déjà le poison, tu peux faire du cumul de dégâts assez épais, surtout qu'il y a moyen de multiplier, d'améliorer,
tu peux les transférer, appliquer du poison à chaque tour, il y a plein de façons de jouer là-dessus. Ensuite il y a le défectueux, aka le chouchou,
c'est silencieux défectueux,
c'est vraiment mon perso, c'est le premier avec lequel j'ai réussi à faire le cœur en ascension 20, donc qui est vraiment le difficulté maximum du jeu.
Oui, qui est une mécanique qui est bien différente en fait. On sent que les deux premiers persos, ils ont des philosophies un peu différentes, mais globalement, on joue qu'avec les cartes, entre guillemets. Alors que là, le défectueux, il y a les orbes qui se rajoutent, qui sont donc des petits emplacements, des petites bouboules qui flottent autour de lui.
T'en as trois par défaut, ces bouboules en fait peuvent avoir différents états. Donc il y a des bouboules qui vont faire des dégâts, il y a des bouboules qui vont te rajouter de l'armure à chaque tour, il y a des bouboules qui vont accumuler des dégâts et au bout d'un moment tu vas les lâcher. Il y en a qui vont te donner des points d'action.
Il y en a quatre
orbes, et tu vas jouer avec le nombre en fait d'emplacements, la puissance compétences qui vont gagner à chaque tour, c'est la concentration et le fait d'utiliser, c'est ça.
Et puis aussi l'effet de les consommer, c'est-à-dire
ouais, c'est
que
t'as, je crois que c'est canalisé.
Ouais, tu les actives.
Alors t'as canalisé, oui, c'est ça, oui, les canaliser effectivement, parce que en fait à chaque tour ils ont des effets passifs et après ils ont un effet actif, voilà, quand tu les utilises, bah, notamment celles qui sont ténébreuses là, qui à chaque tour elles augmentent des dégâts et quand tu la canalises,
elles bim, balancent tout d'un
ça
coup.
Ça y est, ça, tu prends le truc. Et après l'idée en général c'est de pas jouer avec toutes, c'est compliqué de faire les quatre, enfin c'est parce que ça devient un peu le bordel, il vaut mieux se spécialiser,
ça se fait,
plutôt
mais
dire
oui,
ok,
ça peut être,
je vais surtout jouer électricité et vraiment
mais c'est
faire
que,
orage,
comme d'hab, tu vois, voilà, il y a des cartes qui permettent justement, il y a une carte qui s'appelle Blizzard où en gros c'est en fonction du nombre d'orbes gelées que t'as invoqué depuis le début du combat ouais. Ça fait un nombre de dégâts instantanés aux ennemis, c'est très très fort hein, puisque du coup bah tu fais à la fois de la défense et de l'attaque, mais donc il a ça et donc ce principe de concentration. Et le dernier style de jeu du défectueux, c'est d'utiliser les pouvoirs qui sont en gros des bonus qui vont se répéter à chaque début de tour. C'est lui, il en a des tonnes.
Ouais, il a plein de pouvoirs d'appeler des nouvelles cartes, un truc qui fait que bah justement t'augmentes ta concentration, donc la puissance des orbes, enfin voilà, il a beaucoup de trucs là ils ont tous fait une carte,
il peut faire
un peu
en sorte que il y a une de ses plus puissantes, c'est celle qui fait que la première carte que tu joues
oui,
à elle
se joue
jour,
deux fois,
joue deux
voilà,
fois.
Ça ça devient
c'est
ça,
la
ça
violence
devient
sans nom.
Parce que je l'ai pas trop joué, mais je crois qu'il a beaucoup de cartes qui peuvent coûter 0 ou 1 en fonction
oui,
de comment
oui,
tu
oui,
joues.
Oui, c'est vrai qu'il y a moyen de jouer comme ça. Moi j'ai jamais trop réussi à jouer avec les cartes à 0, tu vois.
En fait, faut améliorer, il y a pas mal de cartes quand tu les améliores parce que du coup on peut améliorer ces cartes, elles vont perdre un coup, et c'est vrai que bon, des cartes qui coûtent 0, c'est très pratique. Et effectivement, il a beaucoup de cartes, il a toutes les cartes qui sont liées aux griffes. En fait, il a des petites armes, en gros, ça lui permet de ne pas utiliser que les orbes, on peut utiliser des attaques classiques. Mmh. Et donc, il a une attaque, notamment, je crois que c'est la griffure, où en gros, tu fais un certain nombre de dégâts et tu vas en fait piocher plein de cartes d'un coup et tu défausses toutes celles qui ne coûtent pas zéro. Mais bah, en fait, c'est très utile parce que si tu joues
un deck
avec
que
zéro, des cartes zéro, alors là, c'est la fête.
Et puis enfin, il y a le dernier perso qui est la gardienne, que moi j'ai quasiment pas joué, je l'avais juste essayé très vite fait, mais j'étais pas retombé dans Slay the Spire. Mais toi, par contre, Maxime, tu l'as beaucoup joué.
Yep, oui, bah comme voilà, j'ai joué pour l'épisode, je me suis dit, bon, Benoît, il a je sais pas combien d'heures dessus, moi je vais jouer la gardienne surtout. Et elle, ça va beaucoup jouer sur ce qu'ils appellent les positions. Donc de base, elle a une position neutre, mais elle peut se mettre en état de calme ou en état de colère. Et ce qui fait, quand t'es calme, donc il y a rien, mais quand tu quittes l'état de calme, tu chopes 2 points d'action supplémentaires. Et quand t'es en colère, tu infliges 2 fois plus de dégâts, mais tu reçois aussi 2 fois plus de dégâts. Il y a un autre état qui est beaucoup plus rare, qui est un style à jouer, qui est le divin, où là tu gagnes 3 de points d'action et t'infliges le triple de dégâts sans aucune contrepartie, mais à la fin du tour tu quittes l'état divin. Donc il y a beaucoup de cartes, changez de position, mettez-vous en calme, mettez-vous en colère, à chaque fois que vous changez de position, vous allez gagner 4 d'armure par exemple, ou si vous êtes en calme, piochez des cartes, si vous êtes en colère, appliquez de la faiblesse. Donc il y a beaucoup, voilà, il y a tous ces états, toutes ces positions, tu vas surtout jouer autour de ça, donc sur ces positions, mais aussi les changements de position. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que quand t'es en calme et que tu te mets en colère, bah tu sais que tu vas certes prendre 2 fois plus de dégâts, mais en infliger 2 fois plus, allez, t'as 2 fois plus d'action. Donc si t'as emmagasiner des cartes jusque là, t'as assez de points d'action pour potentiellement vider toute ta main et tuer l'ennemi
très rapidement. C'est une logique
de
burst, on appelle ça, hein. C'est-à-dire qu'on va concentrer un grand nombre de dégâts sur un moment bien précis et on va relâcher la sauce, quoi.
Tu sens vraiment quand même que ces deux autres persos qu'ils ont rajoutés, ils ont vraiment des spécificités,
ils sont vraiment creusés
la tête pour créer des mécaniques et une façon de penser presque le combat qui est quand même assez différent des deux premiers.
Et elle a un autre truc aussi qui est scruter les cartes, t'as plusieurs cartes qui te permettent de voir les premières cartes de ta pioche. Et de défausser ces cartes-là ou de les garder. Donc c'est
un côté
très
planification quand même. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop aimé jouer avec elle, parce qu'elle me demande peut-être un peu trop de penser en avance.
Je pense que c'est le perso qui demande le plus de calcul entre guillemets. Elle a quand même, tu vois, il faut que tu te dises, alors là je suis en défense, enfin je suis en calme, donc je passe en colère au prochain tour, je vais réussir à lui faire tant de dégâts, mais l'autre risque de me faire mal, donc machin, etc.
Ouais, la question que tu te poses, c'est est-ce que je vais finir mon tour, parce que t'as des bénéfices à tout et des risques à tout avec la gardienne, c'est que est-ce que je veux finir mon tour en calme, et je me dis une autre fois quand je me mettrai en colère, comme j'ai dit, voilà, t'auras plus de points d'action et tu vas faire plus de dégâts, mais ça fait que tu finis ton tour, bon tu le finis pas vraiment, mais si tu finis en colère, tu te dis je prends 2 fois plus de dégâts, mais je suis déjà en colère au prochain tour, donc si j'ai que des cartes d'attaque, voilà, il y a tout ça planifié.
Et
scruter te permet
justement d'anticiper encore plus
de savoir qu'au prochain tour tu pourras te mettre soit en colère soit en calme. Et là aussi beaucoup de cartes qui sont retenues, qui ont l'état retenu, ce qui fait que tu les gardes en fait tout le temps, parce que normalement tu défausses de toute ta main. Et là il y a des cartes où tu pour un, tu te mets en colère ou tu te mets en calme et tu les retiens tout
ouais,
le temps.
Du coup, ça permet cette stratégie de burst, toujours de planification et de les sortir en mode, bah c'est pas grave, je garde une carte en cas de coup dur.
C'est ça. Tu dis, je finis le tour en colère. Donc si, et c'est énorme de prendre deux fois plus de dégâts, c'est quand même un très gros risque.
Ouais, on n'a pas beaucoup de points de vie. Hein,
ouais.
Non, ça part vite.
Mais c'est un risque qui tombe à zéro si tu gardes du coup une carte qui te met en case. C'est ta petite carte joker que tu gardes pour après.
Donc il y a tous ces personnages qui ont toutes leurs cartes qui sont attribuées. Il y a aussi d'autres cartes un petit peu qui sont des cartes incolores qu'on va pouvoir soit récupérer comme ça lors d'événements aléatoires, soit chez
le marchand en général,
voilà, qui vont rajouter des petites choses. Ça peut être récupérer des PV, etc. Peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Par contre, ce qui est très 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 important, c'est les fameuses reliques qu'on va récupérer tout au long de notre ascension de l'aiguille, notamment soit dans les coffres, soit face au boss. Et là, les reliques, eh bien, il y en a qui sont plus ou moins fortes et qui vont vraiment parfois radicalement modifier notre façon de jouer. Je peux penser, par exemple, tu parlais de retenir les cartes. Il y en a une, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est pas le bras mécanique. C'est la pyramide, voilà, ouais, où tu ne défausses plus tes cartes, tu les gardes dans ta main. Et là, forcément, le jeu change
complètement. Ouais.
Et l'idée, en fait, c'est avec ces fameuses reliques, de créer. Non seulement on va essayer de créer des synergies avec nos cartes, donc cumuler les effets, orienter son build, je sais pas, vers le poison, vers les orbes électriques, etc. Et après, en fonction des reliques qu'on trouve, là aussi, ça va orienter notre façon de jouer. Et c'est là qu'on va pouvoir faire. Il y a des trucs qui peuvent. On peut rentrer dans des cycles très très puissants. Et l'objectif de la run, c'est en général d'avoir le plus de reliques possible. C'est pour ça qu'on va prendre plus de risques, essayer de combattre un maximum d'élites pour avoir ces objets-là qui transforment encore une fois le jeu. Je ne sais pas s'il y a quelques exemples de reliques
Il y en a des tas. Il y a le compas qui permet de garder de l'armure. En fait, tu vas toujours garder, si tu as plus de 15 d'armure à la fin de ton tour, tu vas garder tout ce qui est au-delà de 15 d'armure. Donc ça peut être très fort. Il y en a un qui fait que tous les 6 tours, tu vas être en état
intangible.
Et donc en fait, tous les dégâts sont réduits à 1. C'est extrêmement fort. Il y a un truc qui fait qu'au premier tour, tu vas forcément mettre faiblesse aux ennemis, ils vont faire moins de dégâts.
Il y en a des plus ou moins puissants. T'as des trucs un peu aux elfes, je sais pas, par exemple, à la fin de ton tour, tu gagnes 6 d'armure. Bon, si t'as pas d'armure à la fin, si t'as pas d'armure, c'est adamantium, la machin.
Mais du coup, tu n'as plus aucune raison de dépenser 1 pour 5 d'armure, par exemple.
Oui, voilà, exactement.
Elle est ultra forte.
Mais si t'as besoin de plus, tu vois, en fait, si t'as besoin de plus de 6,
ça peut être. Mais c'est déjà. En fait, ça t'aide quand même beaucoup.
Au début, je trouve, après, je trouve qu'elle est un peu plus anecdotique sur la fin de la run.
C'est un peu moins fort que celle qui te donne genre 10 au premier tour ou 12 au deuxième ou je crois c'est 20 au troisième tour, mais elle est quand même très forte. C'est quand même une très bonne béquille. Mais sinon, pour celles dont tu parlais qui peuvent orienter ton build, donc parce que t'as aussi des reliques qui sont spécifiques à certains persos, et je parle pas des reliques de départ, je parle vraiment dans le pool d'aléatoire en fonction de la classe que tu joues. Il y en a qui sont différentes. Par exemple, il y en a une, on disait par exemple la silencieuse, tu peux jouer plutôt sur un ou plutôt poison, et il y en a une qui rajoute un de poison à chaque fois que tu infliges du poison. Et ça, c'est une relique. Donc, ça t'oriente
t'as cette relique-là. Si tu joues pas poison, c'est con, en fait.
Ou justement, en fait, non, ça. Disons que ça t'aide plutôt pour les surins, parce que justement, tu vas beaucoup, 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 beaucoup taper. Donc, si tu tapes 6 fois dans un tour, il aura 6 de poison. Donc, c'est plutôt le build surin que ça va entraîner. Ou il y en a, c'est le kunai ou l'éventail.
Le shuriken. Si tu utilises 3 cartes attaque ou 3 cartes compétences dans le même tour, ça va te donner de la force, ça va te donner de la dextérité, ça va te donner de l'armure, ça va te donner différentes choses.
Et donc ça c'est propre à tout le monde, c'est propre à personne du coup. Et donc ça oriente plutôt donc sur un si tu joues la silencieuse ou si tu joues la gardienne, elle aussi elle est beaucoup dans l'attaque avec les points de compétences en plus, ça va orienter un style de jeu plutôt agressif, celui qui te donne 4 d'armure quand t'as fait 3 d'attaque. Bon, t'as les petits calculs qui sont en tête.
T'en as des tonnes en fait. Tu vois, il y a des trucs qui vont faire tu arrives chez le marchand, tu gagnes des points de vie. Il y en a qui vont faire que les trucs du marchand coûtent 2 fois moins cher.
Que les élites ont moins 25% de PV.
Tu gagnes de la vie quand t'arrives au boss.
Et là, c'est le côté un peu wiki du jeu. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup, des reliques. J'ai pas pris le temps de compter sur wiki, mais il y en a beaucoup. Et c'est ça aussi qui va redonner envie d'y retourner. Parce que tu dis, c'est ça aussi qui va faire que chaque run est vraiment, vraiment différente. C'est toutes ces reliques. Parce que le deck, quand tu commences à le connaître, tu vois un peu où tu vas, mais les reliques vont vraiment donner une perspective différente sur tout ça.
C'est ça qui va te donner, en fait, qui va soit confirmer ce que tu es en train de faire, soit t'amener à t'adapter. Et pour les autres reliques qui changent tout le jeu, il y a l'œil du G-Cobra qui va donner moi j'aime bien parce que ça peut être assez. En fait, par exemple, sur le soldat, c'est une carte qui est
des cartes qui coûtent très cher.
A des cartes qui coûtent très cher, et l'œil du G-Cobra va rendre aléatoire la valeur de la carte. Et donc, ça va souvent, en fait, statistiquement, tu vas souvent réduire le coût de la carte et du coup, tu vas démultiplier la puissance du soldat.
C'est l'aléatoire entre 0 et 3. 0 et 4. Il peut te mettre des cartes. Ok, donc entre 0 et 4. Donc si tu joues la silencieuse avec que des cartes à 0, 1, statistiquement, tu vas perdre.
C'est pour ça que c'est intéressant dans certains Chewbacca, il y a la boîte de Pandore qui va transformer toutes tes cartes de base en autre chose. Enfin, voilà, il y a des cartes qui sont assez drôles comme ça.
Il y en a qui vont vraiment plus ou moins transformer, qui vont casser un peu ta run ou vraiment en faire quelque chose.
On le disait tout à l'heure, il y a l'igloo qui te permet d'avoir un point d'action en plus, mais tu ne vois plus les intentions des adversaires.
Il y en a beaucoup, des reliques qui sont comme ça, de gagner un point d'action et qui ont une contrepartie.
C'est souvent les reliques de boss.
Oui, tout à fait. Souvent le premier boss, en général, t'as ce truc-là à récupérer. On parle des boss, d'ailleurs, on peut aussi parler des ennemis du bestiaire, parce qu'on parlait un peu de ce côté puzzle, tu sais, on parlait d'Into the Breach un peu plus tôt, un jeu cher à mon cœur. Et c'est vrai que chaque ennemi est là pour créer des conditions un petit peu spécifiques et venir tester, en fait, notre build. Parce que c'est ça, l'idée, c'est de créer son build au fur et à mesure qu'on monte les étages. Et forcément, si on est en dessous de ce que le jeu attend de nous, c'est là qu'on va perdre. Et tous les ennemis, et notamment les boss, sont là pour tester.
C'est un peu des gros checks. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est pas... Il y a très peu d'ennemis gratuits, entre guillemets. Il y a très peu d'ennemis qui sont là juste pour vous embêter ou juste avec un nombre de points de vie, un certain nombre d'attaques. Il y en a qui sont assez basiques, mais ils ont toujours, en général, un comportement assez spécifique qui va justement, comme on le dit, en fait, mettre à l'épreuve votre compréhension du jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Il y en a un au début du deuxième district qui a, je crois, 30 ou 40 d'armure et qui a en fait barricade, qui fait qu'il ne perd pas son armure entre chaque tour, et il a 3 artefacts, ce qui fait que vous pouvez pas l'empoisonner, enfin vous devez lui appliquer 3 effets négatifs avant qu'il soit effectif, et il a que 20 points de vie. Mais très vite, si tu l'attaques pas suffisamment fort, il peut se retrouver avec 150 d'armure et t'es niqué, entre guillemets. Il y a les piafs, il y a les corbeaux là qui vont gagner 5 de force à chaque tour, donc ils vont au bout de 5-6 tours, ils sont mortels si tu les as pas tués d'ici là, donc il faut jouer le plus vite possible. Il y a des ennemis qui vont se ressusciter après avoir fait un tour. Il y a 3 ennemis, quand tu les tues, ils ressuscitent au bout d'un tour.
Il faut les tuer tous les 3 en même temps, il faut arriver à les tuer quasiment en même temps. Alors t'as un tour de... T'as un petit tour de balancement, c'est tout. Et en fait, c'est ça, il y a plein de compositions d'ennemis qui vont nous forcer à jouer soit très très vite, et de toute façon, en général, c'est ça, c'est nous pousser à faire le plus de dégâts le plus rapidement. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, notamment dans la dernière zone, voilà, si t'arrives pas
gros check. Les
si
élites
pas,
du troisième
si
étage.
Si t'arrives pas à buter un ennemi, c'est de toute façon, c'est pas que t'as pas eu de chance, entre guillemets, c'est que t'es pas arrivé, c'est que ton deck n'est pas assez puissant et équilibré.
Dans les élites de l'acte du troisième acte, il y a la reptomancienne, tu sais, la créatrice de serpents, qui elle est d'une violence sans nom, parce que du coup, tu sais, c'est celle qui te fait apparaître des petits serpents autour d'elle. Et les serpents, ils te font genre 160 de dégâts, tu vois, ou 25 de dégâts.
C'est pas des épées qui volent.
C'est des petites épées.
Oui, c'est pas des serpents.
Non,
c'est
je crois qu'un cheval la tête façon
Médusa. Ah, oui, c'est pour ça qu'elle s'appelle la reptomancienne.
Oui, c'est des épées qui t'attaquent.
Et elles se détruisent après avoir fait leurs dégâts, mais il faut que tu les tues le plus vite possible et il faut que tu l'empêches surtout de faire ces trucs.
T'as aussi ceux qui sont intéressants qu'on peut mentionner, c'est un élite du premier truc, je crois que ça s'appelle les sentinelles, quelque chose comme ça, et qui te rajoute des cartes dans ton deck que tu ne peux pas jouer, enfin qui servent à rien. Et tu le disais justement, par exemple, si t'as une stratégie qui repose sur le burst, c'est-à-dire que t'attends le bon tour pour faire des dégâts, ça fout la merde. Si tu te retrouves avec plein d'autres cartes, donc ça change tes probabilités d'avoir les bonnes cartes au bon moment. Il y a celui que j'aime bien aussi, c'est l'éphémère qui disparaît au bout de 5 tours.
C'est le
deuxième
district. C'est même le troisième, l'éphémère, le troisième.
Qui disparaît au bout de 5 tours et lui, il t'inflige beaucoup de dégâts, mais de plus en plus à chaque tour. Et lui, il faut lui faire. Et à chaque fois que tu lui infliges un de dégâts, il perd un de force ce tour-ci. Et donc, soit tu lui fais beaucoup de dégâts, soit tu te mets énormément d'armure. J'aime bien. Et en général, tu trouves un équilibre. Donc, il faut que ton deck soit un minimum équilibré pour lui.
T'as la grosse tête là qui est posée où au bout de 5 tours il compte de 5 à 3 de 1 pareil il t'envoie des masses de dégâts à chaque tour
et à chaque fois que tu joues une carte ce tour-ci il prend la 10% de dégâts en plus
plus forte, donc il y a justement c'est
si
des...
tu joues beaucoup de cartes ça,
non mais même tu vois ceux du début ils sont intéressants parce qu'ils sont là pour t'apprendre des choses, tu vois ceux qui te
mais
tu vois là ce dont parlait Max, ceux qui te mettent des hébétements là, ça te montre en fait qu'on peut très vite polluer ton jeu et te dire en fait faut bien garder ta main, il faut qu'elle soit équilibré, mais oui, le gobelin, je pense que c'est le plus dur entre guillemets parce que voilà, il a ce truc de force. Et si tu utilises des cartes compétences, tu lui augmentes sa force.
Si tu jouais armure, si tu avais tendance à te mettre beaucoup d'armure et tous les deux tours tu fais des dégâts ou quoi, lui, si tu joues juste défense,
ce qui est terrible, c'est qu'il est au premier donjon, il est très rare, pas encore beaucoup de cartes. C'est en fait le gobelin noble, c'est vraiment un très bon check de te dire en fait, au premier district, tu as besoin d'un certain nombre de dégâts, et en fait, tu vois, ça c'est quelque chose que tu finis par apprendre avec le nombre nombre de parties. Au bout d'un moment, tu vois plus le jeu comme bah, je m'adapte à chaque partie. Non, tu t'adaptes à chaque district run, et tu sais ce que le jeu va t'envoyer dans la tronche. Donc tu anticipes ça en te disant bah, il faut que je sois à peu près à ce moment-là, à ce passage-là, à tant de puissance, tant de potentiel défensif, offensif, etc.
Et c'est pour ça que même si le boss c'est un boss solo, parce que parfois t'as un boss qui va avoir quelques petits minions autour de lui, je prends toujours une ou deux cartes, tu vois, qui font des dégâts de zone.
Ouais.
Pour, parce que les trois corbeaux, les cinq petits gobelins, parce que voilà, il y en a plusieurs. Quand je joue à la gardienne, je sais pas si c'est la gardienne qui l'a, mais t'as un truc qui s'appelle Ki ou Bowling, je sais plus, où t'infliges 7 de dégâts par ennemi qu'il y a. Donc ça fait 21 pour 1 quand il y a un ennemi, quand tu l'améliores, c'est 10. Et si t'es en colère, ça fait 20. Donc tu fais 60 de dégâts s'il y a 3 ennemis. Ce qui est pas mal.
Il faut aimer les batailles. Les chiffres.
Il y a beaucoup d'additions et de soustractions.
C'est vraiment un jeu où il faut aimer le calcul mental. Ça fait partie du. Moi, je trouve que c'est un des trucs ludiques, parce que j'aime bien le calcul mental. Et je trouve que c'est le genre de jeu où j'aime bien faire tous ces petits calculs. Je dis, je vais infliger tant, et comme ça. C'est assez plaisant.
Je sais pas si c'est propre au jeu de cartes, mais il y a la notion de lethal, tu sais, en anglais. C'est-à-dire un tour où tu peux tuer l'adversaire dans ce tour-là. Et parfois, justement, quand tu joues la gardienne, je disais, le fait d'être en colère, de rester en colère, c'est un très haut risque que tu prends. Et donc, parfois, dans tes points d'action, quand tu les investis, il faut se dire, est-ce que je peux le tuer ce tour-ci, ou est-ce que je dépense pour me mettre en calme?
Est-ce que j'attends?
Et lui, il m'inflige 3 fois 18, il a de la faiblesse, il a 52 points de vie, 10 d'armure. Moi, j'ai ça qui inflige 15 de dégâts, mais comme il a faiblesse, en fait, je lui inflige 22. Enfin, tu vois, il y a des trucs.
Il y a quelques moments où t'es devant. Enfin, moi, je jouais surtout sur Switch, tu fais, ok. Les calculs, ça commence à faire vraiment les additions en fonction de machin, est-ce qu'on y arrive et tout. Et finalement, tu disais, Max, c'est d'évaluer, mais surtout de faire des choix. C'est ce truc de faire des choix, et c'est ça le cœur du jeu. C'est ça qui est plaisant finalement dans Slay the Spire, c'est qu'on est constamment en train de faire des choix, de se reposer sur ce qu'on évalue de la situation, sur ce qu'on connaît, sur à la fois nos connaissances du jeu et ce qui se passe à un tour T, j'ai envie de dire.
Chaque tour est important.
Et c'est là vraiment que c'est bien. Il y a la petite situation. C'est quoi la citation? Parce qu'elle est notée dans le cours de l'éditeur. Il faut que tu
me
la
dises. Tout de suite, j'ai pensé. Parce que moi, quand je jouais à Slay the Spire, donc pareil, je suis tombé dessus, tu vois, pendant 2-3 semaines, j'y jouais pas mal. Et je me disais, pourquoi je joue beaucoup? Mais parce que je fais tout le temps les choix. Et ça m'a fait penser à une citation de Sid Meier, donc, qui est connu pour avoir fait Civilization. Et je crois que c'est une citation qui existe potentiellement dans les Game Studies aussi, mais en tout cas, elle lui est attribuée, qui dit: un jeu est une suite de décisions intéressantes. Voilà, il dit, c'est ça un jeu. Et quand tu prends cette définition, tu dis, Slay the Spire, c'est un extrait pur de jeu, parce que tu fais tout le temps, tu prends tout le temps des décisions, tu fais tout le temps des choix.
Déjà, on le disait, donc en combat, c'est vraiment ce côté d'évaluer la situation, de dire, ok, quelle carte j'utilise, quel moment, comment je peux faire un maximum de dégâts, est-ce qu'il faut plutôt que je parte vers de l'armure, est-ce qu'il faut plutôt que je fasse des dégâts, etc. Donc vraiment, t'as plein d'informations en fait que tu dois emmagasiner et qui vont t'emmener à prendre la décision plus ou moins optimale. Parce que comme dans Into the Breach, c'est exactement pareil, t'as une décision optimale. Alors Into the Breach est beaucoup plus orienté pour t'amener vers elle, ils ont essayé de calculer pour que ce soit le cas. Dans Slay the Spire, c'est un peu moins ça, mais
il y a tellement de facteurs qui rentrent
mais l'objectif, c'est d'essayer de faire à chaque tour le meilleur tour possible, c'est-à-dire le plus de dégâts, etc.
De prendre le moins de dégâts sur soi tout en faisant un maximum de dégâts, puisque l'idée, ça va être, comme tu le dis, d'avoir une notion de survie. Donc il faut anticiper le fait que il faut que tu fasses chaque district en perdant le moins de vie possible, parce que du coup, les seuls moments où tu peux récupérer de la vie entre guillemets, c'est les feux de camp qui te permettent de te reposer. Et entre les districts, quand tu finis un boss, mais les feux de camp, ils sont super importants, parce que c'est là que tu peux améliorer tes cartes gratuitement. Et donc, c'est soit tu te reposes, soit tu améliores. Et quand tu te reposes, des fois, c'est pas une mauvaise. C'est un truc que tu peux payer plus tard.
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui va t'encourager aussi à prendre des risques. Parce que la vie, c'est quelque chose, déjà, tu finis le district, tu vas la récupérer. Donc, tu vois,
mais au bout d'un moment, avec les ascensions, tu récupères pas 100% de ta vie.
Oui, sur certaines ascensions, mais dans le jeu de base. Mais après, c'est ça, tu vois. En fait, améliorer une carte, ce sera pour jusqu'à la fin de ta run. Alors que te reposer, c'est un truc momentané, un petit peu, entre guillemets.
Et tu peux aller plus loin, tu peux te dire, si j'améliore ma carte, je le tue plus tôt, donc il m'inflige moins de dégâts, donc ça sert à rien que je reprenne 15 points de vie maintenant, parce que je vais le tuer un tour plus tôt, et il m'aurait infligé 15 de dégâts. Et tu finis par faire des équivalences, comme tu le disais, en fait, c'est que. Tu vas choisir à plein de moments entre te reposer ou améliorer tes cartes, donc tu fais une corrélation déjà, si je gagne des points de vie, ça veut dire que je vais pouvoir améliorer une carte. Donc, il y a des événements aussi, je crois, avec Leclerc qui te propose de payer 50 d'or pour récupérer de la vie, je crois. Mm-hmm. Donc, tu dis, si je paye 50 d'or, je vais pas me reposer, donc je vais améliorer une carte. Donc, techniquement, c'est comme si j'achetais une amélioration pour 50 d'or. Donc, tu te fais des équivalences
comme
ça dans ta tête.
Oui, parce qu'il y a toute une économie dans le jeu, en fait. L'économie, parce qu'il y a de l'or aussi, voilà, qui est quand même assez importante, hein, parce que chez le marchand, tu peux acheter des reliques très, très fortes si t'as beaucoup de pognon.
Les cartes craquées.
Oui, oui, c'est ça. Donc, vraiment, t'as toute cette économie-là.
Plus les potions. On l'avait oublié de le
citer. Oui, c'est vrai qu'il y a les potions aussi. Qui peuvent aussi
qui,
des petits
qui jouent quand même beaucoup hein, ouais, dans la dynamique
il faut,
du jeu.
Faut les consommer, faut les utiliser, mais c'est vrai que par exemple quand tu vas apprendre à jouer, tu vas peut-être avoir tendance à pas forcément vouloir faire tous les élites, alors qu'en fait bon concrètement si. vaut mieux tous se les prendre parce que t'as des
ouais, aujourd'hui je joue plutôt en mode entre guillemets speedrun où je fais des parties qui durent 20-25 minutes max et en fait c'est ça, c'est-à-dire que je regarde mon premier district, je fais en sorte d'avoir au moins deux voire trois élites, donc je me tape les trois d'affilée et donc je sais en gros ce que je veux avoir comme carte pour pouvoir les enchaîner et après en fait arrivé au boss, je sais tout de suite si ma partie elle est finie ou pas quoi. Parce que de toute façon, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que si t'arrives au feu de camp, t'as genre 4 points de vie, tu te dis je vais me reposer, mais tu vois, enfin là tu t'es peut-être en train de reculer pour mieux sauter quoi. Il y a parfois des chances, il vaut peut-être mieux annuler ta run et repartir de zéro.
Oui, t'as des fois où tu te dis là c'est pas bon, ça pue, je suis toujours à la limite, etc. Tu sens que t'es pas bon.
Ou t'as pris une carte que t'as voulu essayer pour la première fois, t'as pris la corruption chez le soldat et t'es là, je sais pas jouer en corruption, donc je sais pas comment on joue.
Mais après c'est ça, voilà, c'est au fur et à mesure des parties, il va falloir s'adapter et apprendre en fait. Et c'est tout cet apprentissage qui rend le jeu si prenant, parce qu'il y a toute cette connaissance à accumuler de à la fois des decks, de comment peuvent marcher les cartes ensemble, et ensuite toutes les potentielles reliques que tu vas avoir et qui peuvent rendre beaucoup plus puissantes des cartes qu'ils le sont déjà.
Et pour continuer, tu vois, sur les choix possibles, il y a ce qui est propre, on le disait, au deck building, donc tu vas te constituer ton deck, il y a des moments où tu vas avoir le choix entre trois cartes, c'est aussi un choix que tu vas faire à chaque fin de combat. Tu vas dire, est-ce que je prends plutôt cette carte, est-ce que je veux favoriser ce type de gameplay, ou cette carte elle va mieux avec mon style de jeu, ou un jeu que je voudrais orienter, où il y a une carte rare, est-ce que je préfère une carte qui colle mieux à mon style, ou est-ce que je prends cette carte qui est rare, qui peut être bien si elle va tomber une fois tous les 5 tours, si je réunis les bonnes. Ça, en général, je vous le dis, c'est pas un
c'est
bon
pas
style
non,
de
c'est
jeu.
Pas bon. C'est pas parce que c'est doré que c'est la meilleure à prendre.
Un jeu de cartes, c'est un jeu de probabilité. Si vous vous basez sur le fait d'avoir deux cartes en même temps dans la main, arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Il vaut mieux un truc solide tout le temps. Et tu peux aussi refuser de prendre des cartes.
C'est-à-dire, un vrai choix, de pas prendre des cartes.
C'est un vrai. Il faut faire une Marie Kondo. Tu dis, est-ce que cette carte me procure de la joie si je la prends? Et surtout parce que on dit, il y a de la, en fait ta main elle va dans la défausse, et une fois que ta pioche est épuisée tu remélanges toute ta défausse, tu t'en refais ta main, et il faut te dire tes cartes elles vont tourner, tu vas les revoir.
Tu peux pas compter les cartes, tu peux pas te dire tiens au prochain tour je vais forcément avoir celle-ci ou quoi,
mais t'as des probabilités, tu sais que tu vas les trouver deux trois fois peut-être si t'as un petit deck ou si t'es au début de la partie.
Oui, d'où l'intérêt de jouer un deck assez faible, tu vois, si tu joues avec 9 cartes tu sais
donc,
tout de suite tout le temps
et donc à chaque fois que tu rajoutes des cartes c'est une probabilité en moins de retrouver tes autres cartes, et donc tu dis est-ce que plutôt que d'avoir cette carte, est-ce que je préfère avoir n'importe laquelle autre de mon deck, et ben dans ce cas ne la prends pas. Tu peux être tenté de tomber dans le piège de la récompense où tu dis j'ai une récompense, j'ai une carte.
Au début du jeu je me suis jamais dit je vais pas prendre de cartes, parce que je dis c'est toujours bien, c'est une récompense du tout, parce que tu augmentes le dénominateur commun de ton deck, et c'est ça qui baisse
et ça c'est vraiment un truc que tu finis par apprendre, et je trouve que le jeu est très fort pour t'apprendre ça. C'est que justement moi j'avais du mal dans certaines cartes quand j'avais joué à Hearthstone, quand je voyais les vidéos des types qui disaient alors ça cette carte tu vois en valeur absolue elle est bien ou pas, je comprenais pas de quoi ils parlaient, et avec en jouant à Slay the Spire au bout d'un moment j'ai fini par comprendre, une carte elle a une valeur absolue et elle a une valeur tu vois relative en fonction du moment où tu la chopes, etc., et c'est ça en fait qui fait sa véritable valeur. Mais une carte qui a une valeur absolue incroyable qui semble être pété peut être complètement osef,
inutilisable
trop tôt. Tu vois, t'as un catalyseur qui peut doubler voire tripler le nombre de poisons de ton ennemi, tu dis je la prends au deuxième tour, mais t'as aucune carte qui fait des poisons, ta carte elle ne vaut rien, et en plus elle ne fait que réduire ton potentiel offensif. Donc en fait là tu t'es tiré une balle dans le pied.
Exactement, et ça fait vraiment partie du jeu d'apprendre justement à équilibrer son deck au fur et à mesure de la progression. Et finalement c'est un jeu où eux ce qu'ils voulaient provoquer c'était l'adaptation, c'était de savoir constamment s'adapter aux situations. Et comment c'est possible, c'est la rencontre entre toute cette connaissance que tu as du jeu et puis l'aléatoire en fait, c'est de s'adapter, de dire ok il m'arrive ça donc je m'adapte parce que je sais qu'il y a potentiellement ça. Et là, c'est là que tu tombes à la fameuse marmite de crack. C'est là où ça devient si prenant.
Ben oui.
Parce que c'est, à chaque run est vraiment différente. Mais à chaque run, tu apprends de plus en plus.
Comme tu apprends de plus en plus, tu sais mieux gérer les situations, tu sais mieux y faire face. Alors, au bout d'un moment, il va y avoir des murs, puisqu'on peut en parler. Il y a ce système d'ascension qui fait qu'il te rajoute un petit handicap à chaque nouveau niveau d'ascension. Et ça se cumule, hein, donc ils sont gardés d'ascension en ascension. Mais comme tu augmentes ta connaissance, ben, tu te dis, ben, cette fois-ci, je vais y arriver. Tu vois, c'est très naturel de recommencer une partie dans Slay the Spire et naturellement le jeu te, tu vois, c'est très gratifiant d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose. Une fois que t'as compris, par exemple, le fonctionnement du Goblin Knob, ou que t'as fini par piger, tu vois, les sentinelles, elles t'ont peut-être embêté au début. Une fois que t'as compris qu'il faut tuer la première ou la troisième en priorité, pour qu'après, du coup, t'aies plus qu'à gérer 10 dégâts par tour, au lieu de gérer 20 points de dégâts.
Exactement.
C'est déjà, tu vois, t'as gagné quelque chose. Une fois que t'as compris que tu peux, tu vois, avoir un contre. Tu vas prendre une carte que tu vas prendre au premier district, mais qui va être le contre ultime contre les corbeaux au deuxième tour. Tu vois, pour la silencieuse, tu as les chausse-trappes qui fait que quand tu te fais attaquer, ils se prennent 3 de dégâts.
Ah, oui.
Tu mets ce pouvoir-là face aux petits corbeaux qui volent. Tu les défonces en un tour. Tu perds un peu de vie, certes, mais en général, tu vas l'absorber dans ton armure.
Juste pour préciser, les corbeaux qui volent, s'ils se prennent 3 dégâts dans le même tour, ils tombent au sol et perdent une habilité. Ils prennent que la moitié des dégâts.
Pas quand c'est les chausse-trappes. Les dégâts de chausse-trappes sont pas comptés dans ces trucs-là, c'est les dégâts directs. Chausse-trappe, tu sais, c'est le pouvoir qui fait que quand on t'attaque, tu renvoies 3 dégâts.
Ah, s'ils le font 3 fois. Je croyais que Épine, ça les fait tomber. Bon, mais ok.
Ça va outrepasser leur espèce de pouvoir qui réduit ton
attaque. Comme eux, en fait, ils attaquent quasi systématiquement 5 ou 6 fois.
Oui, c'est ça.
Là, eux, ils font 5 fois 1, mais toi, tu leur fais 5 fois 3. En fait, tu vois, t'as un différentiel qui est vachement en ta faveur. Et pour peu que t'aies mis une carte d'armure. C'est plié, quoi.
Et puis encore une fois, il y a quand même une vraie richesse avec chaque personnage en fait à exploiter, parce que les différents builds, en fait, c'est parce que on le présente comme ça, genre ok, il y a le build poison, mais
tu mets du temps avant
d'arriver à vraiment un bon résultat, un bon build poison qui fait que tu vas pouvoir battre le fameux cœur.
Oui, parce qu'il y a pas un build poison magique qui fonctionne tout le temps. Il y en a des tonnes et il y a plein de façons de distribuer,
d'optimiser en fait le nombre de poisons que tu vas appliquer. Et parce que encore une fois, c'est vrai que plus le jeu avance, plus difficile, et le fameux cœur à la fin, il faut le passer hein, quand même. Il peut. De toute façon, si t'arrives devant et que t'es pas prêt, tu te fais éclater la tête. Je crois que son premier tour, il fait 15 attaques d'affilée, 5 ou 6 chacune. Si t'es pas prêt du tout, et si tu comptes justement, moi ça m'arrivait d'arriver devant, tu vois, en comptant un peu sur la chance que je tombe bien sur cette carte, tu sais, genre les modes intangibles, des trucs comme ça. Ça marche pas, tu vois.
Mais oui, il y a des tours comme ça où tu te rends compte que ton deck il reposait, enfin il avait un pourcentage de chance et parfois c'est juste tu gagnes sur ça. Je me souviens d'un tour frustrant où je suis tombé, ces soldats d'élite, ces 3 gladiateurs, je crois. Ils arrivent, ils font genre 13, 17, 20 dégâts. J'ai aucune armure dans ma carte, je peux pas en tuer un. Tu fais putain, je perds.
Ton deck, dans l'absolu, tu vois, t'as un potentiel de 40 d'armure par tour, mais ce tour-là, pas de bol, tu l'as pas.
Soit j'en tuais un ou deux, soit j'avais beaucoup d'armure, et là, tu sais, ni l'un ni l'autre, quoi.
Et une des, on va dire, vraiment, tu vois, le high level de Slay the Spire, moi je suis des gens qui font des records de victoires en Ascension 20, c'est justement d'arriver à manipuler, ou en tout cas, d'outrepasser cette notion de RNG au début. Tu vois, il y a plein de gens dans le Discord qui disaient c'est frustrant, t'as pas la bonne carte, t'as pas le machin. Eux, c'est des gens, ils arrivent à gagner à chaque fois. Ils arrivent à gagner en Ascension 20 à chaque fois parce qu'en fait, justement, ils se disent, ils prennent le moins de risques possible. Comme tu dis, ils sont vraiment dans des calculs de proba constants en disant, je vais jouer telle carte, du coup, je vais être prêt pour cette situation, etc., etc. Et ils font en sorte que pour chaque tour ils aient le bon truc et c'est un régal à regarder hein. Alors c'est des vidéos de 3-4 heures hein.
Moi je pense que ça dépasse le stade où tu sais, parce que moi j'aime bien quand même jouer un tout petit peu à l'intuition et quand si tu veux jouer vraiment correctement à ces jeux, il faut arrêter l'intuition, il faut calculer, tu vois, il faut vraiment faire des calculs.
Moi je suis vraiment passé de parties qui duraient 2 ou 3 heures à des parties de 20-25 minutes, mais parce qu'au bout d'un moment j'aime bien jouer très vite, mais je peux refaire des parties où je vais passer 25 minutes sur un tour,
tu vois, sur la fin ça m'amuse plus en fait. Je m'amuse plus quand on devient trop dans le... Quand ça devient
trop
le...
la cinquième classe de Slay the Spire, le Flame Quitter.
Je pense que quand même, Slay the Spire, j'ai bien passé au moins 100 heures, donc ça va quand même. J'ai pas trop flame quitter.
On va dire, comment ça s'appelle, en valeur Hugo, c'est énorme.
Oui, clairement, c'est énorme. Mais en valeur Hugo, c'est énorme.
Mais c'est ça qui est cool aussi avec ce système d'ascension, c'est que tu comprends que le jeu de base, en fait, il est déséquilibré en ta faveur parce que tu peux cumuler 20 handicaps qui sont vénères et quand même gagner avec le même deck de base. Alors, t'as débloqué quelques cartes, hein, mais pas tant que ça. Concrètement, il y en a qui font quand même la diff. Mais au début, t'es très fort.
Bah, tu n'as pas, ça, oui, mais tu n'as pas la connaissance. C'est-à-dire c'est que ça. T'as la possibilité d'être très fort, mais tu ne sais pas l'être. Ouais, donc, de toute façon, le jeu, il est équilibré par rapport à toi.
Et de toute façon, ce qui va être vraiment cool, enfin, donc, tu peux prendre du plaisir à devenir meilleur, à trouver tes synergies, et de toute façon, tu le feras forcément automatiquement. Mais je pense que ce genre de jeu, il va susciter aussi des moments où tu te souviens de la fois où t'as fait 200 de poison à tel ennemi.
Oui, avec
où,
des billes pétées.
Voilà, hein. Où t'avais 10 orbes avec le défectueux parce que t'as eu les bonnes cartes au bon moment, ou de ce tour avec la gardienne, où t'as enchaîné calme colère, et ça te faisait piocher des cartes, ça te donnait des points d'action, et t'as fait 200 de dégâts en un tour. Enfin, et c'est toutes ces synergies, toutes ces reliques, toutes ces potions, tous ces trucs, où t'as eu un alignement des astres, un alignement des cartes, et tu dis, bah, tout a convergé sur ce moment, et en fait, j'ai éclaté ce tour-là.
Et ça, c'est le roguelite. Ouais. Enfin, on le dit toujours, on le dit à chaque épisode, c'est le roguelite, c'est d'atteindre ce stade-là, ce truc un peu overpowered. Et ça y est, et là tu kiffes parce que t'as cumulé tous ces effets-là et tu te rends compte du potentiel. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là où tu prends le plus de plaisir sur ces jeux-là. Et je pense que c'est pour ça que t'y reviens. Parce que t'as une espèce d'adrénaline rush un petit peu qui est là, la dopamine qui est là, et tu prends énormément de plaisir. Et tu te dis, je veux retrouver ce petit moment. Ouais, le fixe, ça y est, on est dans la langue de la drogue.
On peut comparer, alors désolé de sortir Dark Souls là, mais on peut le comparer parce que justement, comme c'est pas un ennemi humain que t'as en face de toi, tu vois, il est prévisible. Tu sais en fait ce qui va t'arriver dans la tronche. Tu sais les valeurs de dégâts. Il y a pas d'un coup le boss qui d'habitude il te fait 20 de dégâts, d'un coup il t'en fait 200. Ouais. C'est pas possible. Il fera toujours dans un certain braquet, tu vois. Donc tu sais à peu près ce qui va t'arriver et tu vas essayer de outsmart, tu vois, d'être plus intelligent que ça, de mieux comprendre les mécaniques de jeu et les implications de chacun de tes micro choix pour à la fin. D'ailleurs, enfin, moi je sais que mon plaisir c'est pas de tuer le cœur, tu vois, c'est juste réussir à enchaîner. Ouais. Par exemple, chez quand je fais le premier district en 2-3 minutes, je suis super content parce que je trouve qu'il y a un truc très drôle à réussir à enchaîner extrêmement vite le truc, et j'aime beaucoup. C'est un des rares jeux que je fais vraiment en speedrun. Quoi.
Et tu sais, je pense que c'est important ce que tu dis, le côté que tu sais vraiment. C'est un jeu où il n'y a pas de coup critique. Ouais. Y a pas, les ennemis ne te feront jamais plus mal que ce qui est prévu, que ce qu'ils te fassent. Et ça, c'est vraiment un petit truc, tu vois, dans Into the Breach, c'est pareil. Jamais les ennemis, il va se passer un truc. Alors qu'à l'inverse, dans des jeux comme, je sais pas, Darkest Dungeon, parfois, bim, punition, t'as pris un coup critique dans la gueule. Et tu sais, t'as pris trois fois plus de dégâts, et en fait, ça,
XCOM, t'as 88% de chance de toucher, le mec il a une case de toi et tu le rates.
Et ça, tu vois, ils ont pris ce parti-là de ne pas jouer sur cette frustration potentielle-là, alors qu'il y a beaucoup de jeux qui peuvent justement dire, on rajoute ce petit sel qui fait que ça peut être dangereux et te punir. Là, dans Into the Breach, dans Slay the Spire, tu n'as pas ça, et c'est ce qui te permet en fait de faire des choix qui sont toujours raisonnable en fait. T'as jamais ce côté de dire mon choix était pas bon parce que j'étais puni par un coup critique. Non, c'est parce que t'as pas fait les bons choix.
Et du coup, on retrouve cette idée d'apprentissage où ta connaissance vraiment te permet de surmonter l'obstacle. Et ça, c'est quelque chose qui est super parce que le jeu te demande pas d'avoir des réflexes, d'avoir une espèce de... Tu vois, il n'y a pas une difficulté cognitive où il faut faire des enchaînements d'actions, des dragons, des quarts de cercle, des machins. Là, c'est vraiment juste de la compréhension intellectuelle. Et c'est un jeu que tu peux passer 3 ou 4 heures sur chaque partie parce que tu vas vraiment tout calculer, tout anticiper, comme tu peux passer 10 minutes dessus. Donc,
Et puis c'est un jeu qui a une profondeur, en fait. Tu vois, moi, pour y avoir passé 100 heures, pour moi, c'est énormissime. C'est-à-dire que c'est un jeu et où tu peux passer des heures.
Il y a beaucoup de jeux où t'as fait ces 100 heures.
Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, moi, quand je vois ma grand-mère qui joue, elle est très sudoku, mots croisés, ces trucs comme ça, je me dis, si elle n'avait pas l'a priori du jeu vidéo, mais je me dirais, mais ça, ce genre de jeu, parce que tu sais, ma grand-mère joue beaucoup, elle adore tout ce qui est jeux, chiffres, les machins et trucs comme ça.
Tu peux tenter Tetris, en vrai, c'est simple, efficace.
Non, mais
ça
tu vois, Tetris, c'est une exécution, alors que Slay the Spire, c'est vraiment purement de la réflexion, et c'est ça qu'elle aime, tu vois. Et je me dis, mais j'aimerais trop qu'elle joue. Je dis, mais ça t'occuperait, mais toute la journée, tu te fais chier à regarder Slam, Stasher, tu joues à Slay the Spire, tu vas kiffer.
C'est pareil, ma mère, elle jouait à Candy Crush, tu vois, encore, elle doit être à l'étage 22 000 maintenant, j'en sais rien. Mais c'est ça, parce que. Putain, faudrait que je la mette. Enfin, j'essaye des fois de lui proposer des trucs, mais comme tu dis, il y a une génération,
l'esthétique qui passe pas. Mais en fait, quand je la vois jouer à des trucs, parce qu'elle adore, tu sais, elle a ses copines, elles vont jouer aux cartes, au machin, tous ces trucs là en fait, ma grand-mère, c'est une grosse gameuse, tu vois. Que elle a pas cette approche là il y a cette barrière. Mais des jeux comme Slay the Spire, je me dis, putain, mais ça, c'est sûr que tout ce qu'il y a dedans, ça te plairait, parce que c'est du calcul, c'est du machin, c'est de l'optimisation, c'est des choses qu'elle aime, tu vois, et qui les stimule beaucoup. Mais je peux pas lui mettre une Switch dans les mains et dire, vas-y, va jouer, ou même un PC, tu vois.
enfin tu vois, faire passer cette étape-là. Mais pourtant, je trouve qu'il y a cette, dans ce jeu-là, et c'est ça que je voulais dire, il y a cette profondeur qui fait que tu peux y passer des heures et des heures et des heures parce qu'il y a tout ça en fait qui est dedans.
Et le ticket à l'entrée, c'est contrairement à un tas de jeux, il y a pas tout un problème de dextérité, de maîtrise, de l'outil, du joystick, des boutons, de machin. Tu joues avec ta souris. Ça, tout le monde sait faire normalement. Enfin, je veux dire, tu vois, n'importe qui a joué au solitaire ou à Fricel, c'est comment ça fonctionne. Tu poses ta carte sur l'ennemi quand tu veux l'attaquer, tu poses ta carte défense sur toi quand tu veux te défendre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme adresse. Et encore, tu peux même jouer avec les touches du clavier quand tu vas très vite. Mais du coup, c'est...
Enfin, non, c'est ça, comme ça tu dis, c'est purement intellectuel. C'est un jeu qui est purement un jeu qui demande un truc. Mais comme des Into the Breach, encore une fois, tu vois, tous ces jeux-là, qui sont des vrais jeux de stratégie, quoi, de stratégie tactique, de puzzle même, où il ne s'agit simplement de ce qui se passe dans ta petite tête.
Et la petite touche que je trouve qui est diabolique, c'est si, quand t'as terminé une partie, donc que tu sois mort ou que t'as terminé, si t'en relances une, ça commence par un event aléatoire. Tu sais, c'est les bienfaits de la baleine.
Et si t'es allé au boss, t'en as 5 au lieu de 3, et eux au lieu de 2, et souvent, c'est 4. Pardon, et tu peux être très bien, quoi. Sachant que
tu peux récupérer une relique rare à la place de la tienne, et là, en fait, tout de suite, ça va lancer une run différente en fonction de la relique.
Et même en fait, quand tu meurs dès le début et que t'es pas allé jusqu'au premier boss, donc Nioh, il te met soit du PV max, ce qui est très utile, soit les trois prochains combats, les mondes ont un PV. Et 9 parties sur 10, tu peux avoir un élite qui a un PV. Et tu peux te retrouver à avoir un... Tu vois, si tu prends un chemin avec des points d'interrogation, un feu de camp, un marchand, un bidule, tu peux te démerder pour qu'il y ait un des élites du premier district que tu niques avec un PV. Et quand c'est le diablotin, alors là, évidemment, tu lui craches la gueule au passage. Mais c'est... Et du coup, tu te dis, en fait, je peux repartir. Et une minute plus tard, t'es déjà au quatrième étage, t'as déjà fait un élite, t'as déjà une relique, et c'est fini.
Il est 3h du matin, alors en fait, tu avais commencé à 22h. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui rend ce jeu si addictif. Moi je l'ai relancé juste pour l'épisode vite fait, tu vois, mais ça y est, en y jouant j'ai fait j'en ai marre en fait, j'ai ma dose quand même. J'ai plus été accroché par Into the Breach que Slay the Spire. Je pense que j'ai passé plus de temps sur Into the Breach, mais
Into the Breach, pour moi, je suis imperméable au truc, vraiment. Je déteste ce jeu,
enfin je n'y arrive pas. Le même plaisir, j'y retrouve quand même un petit peu ce même délire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a une formule en fait qui est extrêmement efficace, et surtout ils ont atteint cet équilibre avec cet équilibre, ce sweet spot dont on parlait avec chacun de ces personnages, et qui fait que c'est un jeu qui est vraiment devenu une référence. Alors déjà, il y a beaucoup de modes qui sont arrivés, donc aussi il y a encore plein de façons de jouer. Moi, c'est l'expérience des modes, c'est pas quelque chose qui me... je joue très peu avec des modes, c'est pas un truc.
Alors, j'ai beaucoup testé, parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre, tu vois. Donc il y a le jeu de base, il y a aussi le défi quotidien, où là le jeu en fait va te donner c'est un petit peu en mode sandbox, où il va te donner des bonus un peu chelous, etc. Et tu dois essayer de faire le score max. C'est intégré au jeu, et quand t'as fait le tour un peu de tout ça, tu peux commencer à t'intéresser aux modes avec le Steam Workshop. Et il y en a notamment un que je suis obligé de citer, qui s'appelle Dawnfall, qui a été mis en avant carrément par Megacrit, parce que du coup c'est devenu une espèce de jeu dans le jeu, où là en fait tu joues les boss et tu débloques au fur et à mesure les différents boss et les différents élites de Slay the Spire, et tu dois tuer les héros et tu dois redescendre en fait. Donc tu pars du haut et tu redescends, et ils ont réussi à inventer un gameplay qui fonctionne avec tous les boss. C'est très drôle de les jouer, et si vous y jouez sur PC, je vous invite à télécharger Dawnfall, c'est gratuit, ça vous permet de transformer vraiment votre expérience, quoi.
Et puis après, j'imagine qu'il y a des gens qui ont inventé des personnages
Il y a des personnages, il y a des crossovers avec des persos d'autres jeux, de machin, enfin il y a des milliards de trucs, il y a évidemment des tonnes et des tonnes de choses qu'on va y rajouter, mais c'est un jeu qui en fait, tu vois, a une richesse vraiment intrinsèque qui est énorme. Et il va être adapté en jeu de plateau. La campagne Kickstarter, elle a terminé il n'y a pas longtemps. Je l'ai pas acheté, j'ai réussi à résister à l'envie de craquer 150 balles là-dedans, mais je serais assez curieux, tu vois, de le tester un jour. Je me dis, j'irai peut-être un jour au Philibert du coin, tu vois, pour voir s'ils l'ont et essayer ça.
Mais surtout, c'est devenu une telle référence qu'après Slay the Spire, on disait, il n'y avait pas avant, il n'y avait pas de deck building roguelite, après, alors là...
Ça a
été le raz-de-marée. Je pense que 2018, je me souviens d'une période où tu disais que tous les jours limite tu recevais nous sommes un studio indépendant, nous avons sorti notre nouveau jeu qui mélange roguelite et deck building.
Incroyable.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je fais un petit coucou à Mylène Lourdel, tu sais, qui fait du marketing pour beaucoup de jeux indés, notamment en France, et qui du coup me recommande des jeux. Et à un moment j'avais mal pour elle, parce que tu sais, elle venait me voir, elle me disait, j'ai un nouveau roguelite à te proposer. c'est un jeu de cartes. Oui, c'est le 40e depuis le début de l'année.
Il y a eu vraiment beaucoup
y a
de...
Eu, je crois que c'est 2019, 2020, 2021, ça n'arrêtait pas, quoi, là.
Parce que bah, c'est vrai qu'on voit un jeu comme ça qui sort un peu de nulle part, parce que c'est leur premier jeu à ce studio-là, ils sont juste deux, et c'est un succès qui est monumental. Donc il y a un côté un peu braquage, et surtout, c'est vrai que bah, dans la sphère indé, c'est un type de jeu qu'on ne voit pas dans le AAA, parce que bah, juste, tu vois, on n'imagine pas jouer avec des cartes ou un truc comme ça sur un jeu de l'envergure d'un AAA. Par contre, dans l'indé, bah, c'est beaucoup plus viable, parce que bah voilà, t'as pas forcément d'animation à faire. Enfin voilà, Slay the Spire, c'est pas très
ouais,
bon, on l'a
c'est
dit.
C'est un bon exemple de production
enfin,
value.
C'est
très très
dit,
bon,
voilà,
ouais,
parce que en fait, bon, il y a quand même une production value qui est sur l'équilibrage, etc., qui est importante. Oui. Mais voilà, tu te dis, bah, il n'y a pas besoin d'avoir un milliard de savoir-faire pour sortir ce truc. Et forcément, bah, pour beaucoup d'équipes, tu te dis, bon, bah voilà, ça peut être le bon moyen.
Et
de,
c'est
de...
très facile à prototyper. C'est-à-dire ouais. que du coup, quand on a une jeune équipe de studio, si vous vous lancez dans des jeux, prototyper un jeu de cartes, c'est relativement simple. Hein. Évidemment, je mets des grosses guillemets. Mais voilà, vu que c'est une carte, il n'y a pas besoin d'avoir des mécaniques de gameplay, d'avoir des animations, des machins. C'est un truc qui peut se prototyper assez vite et ça a donné bah, des tonnes et des tonnes de clones. Hein.
On peut citer quoi ? Il y a Monster Train peut-être
qui avait
plutôt
un des seuls
bien
qui a
fonctionné.
Vraiment bien fonctionné, entre guillemets. Lui, il avait un petit twist où en fait tu combattais des ennemis par étage.
Ouais, ouais.
Donc il y avait une gestion comme ça de dans chaque combat des étages à anticiper.
Bah, c'est ça, il faut rajouter un petit twist
bah,
pour que ça fonctionne un petit peu. Il y a Dicey Dungeon, je pense aussi,
ouais.
qui est un petit peu
oui,
dans,
c'est
dans
la même
ce
chose,
genre-là.
Avec les dés.
Mais voilà, c'est des dés, les cartes, tu les remplis avec des dés. Mais encore
incroyable,
une fois,
ce
c'était pas mal. Ouais,
ah,
c'était plus
la
mal. On a noté quoi ? On a noté Banner of Rune, on a noté Rockbook, on a noté Grifflands, qui était
ouais.
voilà, du studio Clay, dont à chaque fois on dit peut-être qu'on en parlera un jour dans Fin du Game, mais voilà qu'on va sortir leur jeu où là, eux, ils voulaient faire un truc un peu narratif ou je sais pas,
c'est
un petit jeu.
Ouais, c'est un peu plus ambitieux.
Ouais, ouais. Et en fait, t'as deux systèmes de jeu, donc t'as le système de combat. Slay the Spire hein,
ouais,
avec
oui.
les cartes Clay, et ils ont ce qu'ils ont appelé le système de négociation
oui.
où tu vas pouvoir en fait essayer de convaincre les gens de te donner du blé, de t'accompagner pendant une mission quoi que ce soit. Et il y a d'autres types de cartes, c'est globalement same shit hein, tu joues la même chose la conclusion qu'on en était arrivé tous les deux, parce que je sais qu'on y a joué avec
ouais.
Max, c'est qu'en fait ça aurait pu être très bien si c'était pas un
ouais,
roguelike.
C'est ça, parce que à la fin en fait, alors j'ai un peu oublié honnêtement, déjà juste négociation c'est aussi un combat
ouais,
entre
ouais,
guillemets
un
avec
un
les
combat,
cartes
en fait
ouais,
il
ouais,
y a de la volonté, tu dois
ouais.
affaiblir la volonté
oui,
de l'adversaire.
Okay. Et tu dois avoir des événements plus ou moins... ouais, ça doit être narratif, mais randomisé, j'imagine.
Ouais, ouais, ouais. C'est pensé comme une espèce de RPG, quoi, où tu vas avoir un district, tu es une sorte de chasseur de primes, enfin, t'es une chasseuse de primes par défaut, t'accompagnes des petites missions, machin.
C'est ça, et t'as des persos, des dialogues,
ouais.
mais à la fin, je crois que
long.
Tu débloques... Oui, en fait, c'est ça, c'est que c'est long. À la fin, tu débloques, je crois, un nouveau perso qui a son gameplay. Je me souviens d'une pièce,
histoire.
Je sais plus trop.
Ouais.
Mais bah, tu recommences un peu depuis le début, et t'as un côté... J'ai pas envie de me retaper.
Là, c'est des parties
comme
quoi qu'il arrive, vont durer plusieurs heures.
C'est ça.
Et bah, du coup, je crois qu'on l'avait dit avec Dead Cell, la longueur d'une partie, ou peut-être avec Returnal, la durée d'une partie d'un roguelike, c'est important à prendre en compte. Un roguelike qui dure 4 heures.
Ah oui, et là, c'est même. Alors, la première fois, je sais plus, mais moi, je me souviens avoir fait une run satisfaisante, c'était peut-être 8 heures. Enfin, je sais
et
plus.
Et t'as envie de relancer. Enfin,
bah, non, j'ai testé un peu le gameplay, j'ai fait, bah, c'est bon, en fait, je vois où ça
c'était comme Star Renegades, tu t'en parlais un petit peu.
J'ai le même retour avec Star Renegades.
Oui, c'est ça, ça aurait été très bien,
pas
en roguelike.
Ou si t'as des checkpoints par niveau. Enfin, tu vois, un truc comme ça.
Il y aurait eu des trucs comme ça.
En tout cas, voilà, on peut mentionner Fortales, mais en fait, tu vois, on va commencer à rentrer dans des jeux de cartes qui sont vraiment différents. Je pense à Inscription aussi, tu vois.
C'est des jeux plus
narratifs,
vraiment, là.
C'est peut-être que ça a relancé la mode vraiment des cartes en jeu vidéo.
Il
n'y
avait pas besoin.
Voilà.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait
déjà
Hearthstone, il y avait Ends of Fate. Enfin, le jeu de cartes, c'est toujours plus ou moins bien porté. Il va bien.
De mettre des cartes un peu partout, tu vois, je pense à Neon White, tu vois, où il y a aussi, tu récupères des cartes qui sont des attaques.
Oui, c'est un FPS, mais c'est
avec un peu des cartes et tout. Donc, peut-être que maintenant, on en voit peut-être un peu plus, mais ouais, dans les clones de Slay the Spire, j'ai l'impression que bah, personne n'est vraiment venu concurrence, enfin passer devant en fait.
Ben, Rockbook, typiquement, c'était encore un des jeux de l'équipe derrière Magic, enfin en partie de gens qui étaient de Magic, et bon, bah, ça s'est un peu gaufré quoi, hein. Justement. C'est un jeu qui était vendu assez cher et il a pas forcément bien fonctionné.
Mais ça a vraiment créé un truc en fait sur Steam où tu sais, c'est vraiment deck building, enfin tu sais,
ouais,
ça,
bah, de toute façon,
c'est un
tag,
jeu
hein.
qui est, ouais, c'est un tag quoi, limite, ouais. Qui est devenu, enfin tu vois, si tu as joué à Slay the Spire, le nombre de jeux qu'on peut te recommander, like Slay the Spire, on a beaucoup. Et finalement, c'est pas souvent dans l'histoire du jeu vidéo, tu vois, qu'il y a, il y a un mix qui arrive et en fait, tout le monde fait ah putain, ça marche super bien et ça y est, tu vois. Ça arrive quelques fois, tu vois, il y a eu Battle Royale qui est arrivé où ça mélangeait deux trucs et on était bon.
Survie Crafter.
Ouais, voilà, ça aussi, voilà.
Survie Crafter. On a commencé à avoir les forests, les machins, les bidules. Enfin là, tu vois, un des plus gros succès de Steam du moment, c'est The Sons of Forest, qui est la suite de The Forest, justement, et c'est du pur survie, craft, artisanat.
Il y a Ark 2, je crois.
Ark, évidemment, avec Vin Diesel, Babouliner,
oui,
qui sera parmi nous.
J'ai pas vu tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, souvent dans le jeu vidéo, il y a un moment où il y a un mix de trucs et ça paraît évident parce que c'est super réussi et ça y est, en fait, tout le monde arrive dedans et ça devient un genre, quoi, un sous-genre apparent.
C'est un bon moment pour rappeler que le jeu vidéo fonctionne par mimétisme et par, tu vois, par association, en fait. Il n'y a pas de choses qui sortent spontanément du néant. Hein. C'est quand les gens râlent en disant ça ressemble trop à tel jeu. Ben oui, tous les jeux font comme ça. Enfin, sinon, je veux dire, on se serait arrêté à Doom et on n'aurait jamais eu d'autres FPS. Enfin, tu vois, donc c'est le jeu vidéo a toujours progressé en fait par imitation. C'est
et
comme
après,
ça que ça
voilà, il y a des mélanges qui vont marcher, qui vont donner quelque chose. Enfin, tu vois, on parlait de Borderlands.
Ouais.
Pas pareil. Voilà, c'est
un
jeu
Diablo plus FPS
et bim, et Halo plus Diablo et ça y est, on fait quelque chose et hop, il y a une recette qui arrive et ça a donné les looter shooters quoi. Et finalement, dans une sphère beaucoup plus indé, c'est un peu ce qui s'est passé avec Slay the Spire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Encore une fois, on ne se retrouve pas. Dans deux semaines, on se retrouvera début avril pour un épisode sur le professeur Layton.
L'étrange village.
L'étrange village.
Qu'on avait, annoncé avant l'annonce du nouveau.
Oui,
là, vous savez, mais il faut le dire.
C'est important de rappeler aux gens encore une fois
c'est rigolo,
n'oublient pas à qui ils doivent les choses et c'est pour ça qu'il faut nous soutenir sur Patreon. On remercie
si vous voulez des épisodes.
Si vous voulez que vos jeux que vous aimez ressortent ou qu'il y ait des suites, vous savez sur qui il faut compter. Sinon, on s'arrête.
Ouais.
Est-ce que
le DLC d'Elden Ring aurait été annoncé?
Oui, Metroid Prime Remaster, il n'y aurait pas eu.
On ne nous donne pas
ça. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de les professeurs Layton.
Il y a des gens, j'avais même vu des vidéos, ces licences qui ne reviendront jamais avec Professeur Layton. Voilà. Nous, on annonce et ça sort.
Bon, Silksong, ça arrive, mais on fait ce qu'on peut.
On a les pieds et mains liés là-dessus.
C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On a sorti trop tôt. On leur a peut-être mis la pression. Voilà, donc soutenez-nous sur Patreon. On remercie une nouvelle fois le PlayStation Plus de sponsoriser Fin du Game. On rappelle que vous pouvez accéder à plein de jeux via ça, et notamment le dernier Horizon et Holy Holy World qui est arrivé. Ça, on vous recommande.
C'est
sympathique.
Trop bien. C'est vraiment trop bien.
Si vous aimez les 3-6 flips et les nose grind et
les combos de 72 tricks d'affilée, exactement, tu vois, que tu maintiens du début
si
à la fin.
Si vous avez des petites Vans, petit pantalon baggy, la petite ceinture Volcom, le t-shirt Element, on est bon. C'est parti, les années 2000. Merci de nous avoir écouté. À la prochaine.
Salut.
Ciao.